Bonjour, bonjour tout le monde, bonjour le chat, comment ça va les petits amis? Bienvenue, bienvenue à toutes et à tous, bienvenue dans ce stream, pas à l'arrache du tout, hein. Pas là, un stream préparé, un stream organisé, un stream volontaire et tout, ah ouais, carrément. Bienvenue, il n'y a toujours pas de questions au gouvernement, et on se fait chier, hein. C'est quand même dingue, hein. Il n'y a pas de questions au gouvernement, le monde s'arrête, la planète arrête de tourner. Et nous, on est là, on est perdus. Tels des petits oisillons dans la nuit. On attend la lumière. On attend le retour du soleil. Et le retour du soleil, c'est la semaine prochaine. Rassurez-vous, la semaine prochaine. Le retour de Le Cornu en superstar. Ouais, non, ça va être bien. Comment ça va, vous? Est-ce que vous passez une bonne journée? Pourquoi il n'y a pas de questions au gouvernement, d'ailleurs? Parce que c'est les vacances. Il y a une semaine de pause. Dans les travaux parlementaires, c'est prévu, hein, c'était prévu dans le calendrier. C'est une semaine de suspension des travaux, comme on dit. C'est quand que ça gueule? C'est quand que ça gueule, là? C'est quand le retour de l'Assemblée? Nous, on veut l'Assemblée, nous. La journée est correcte, formidable. Ça télétravaille assez paisiblement. Ouais, c'est bien le télétravail. Ouais, le télétravail en Charentaise, c'est bien. Ce matin, j'étais invité de l'émission MVP, l'émission de Samuel Etienne, une émission qu'il fait toutes les deux semaines, sur le thème du travail, du travail, de l'emploi, tout ça. MVP, ça veut dire ma vie pro. Et c'était super intéressant. On a reçu un psychologue du travail pour parler des conditions de travail et du peu de motivation des Français à travailler, qui a été mesuré dans une étude qui est sortie récemment. Je crois la stat, c'est qu'il n'y a que 8% des Français qui sont motivés au travail. Vous êtes motivé au travail, vous? Comment ça se passe, la motive? Ou est-ce que vous le faites... Vous le faites parce qu'il faut bien, quoi. Non, bof, non. Ça dépend des jours, bof. Yes, je fais partie de la majorité pour une fois. Non. Oui, très motivé, oui. Non, j'angoisse au travail. Étant en burn-out, j'aurais dû écouter ce matin. On a parlé du burn-out un peu, ouais. Je travaille et c'est déjà bien. Ah, vous êtes quand même nombreux à pas être giga motivé au travail. Hein. Moi, je suis motivé au travail. Hein. Techniquement, là, je suis en train de travailler. Hein. C'est mon boulot. Et je suis très heureux de faire ce travail. Grâce à vous. Moi, quand j'ai pas le chat qui défile, je vais pas bien. Hein. Je suis là devant mon PC, il se passe rien. Ça bouge pas assez et tout. J'angoisse. Hein. Mais quand vous êtes là, je vais mieux. Moi, je bosse pas, ça règle le problème. Mais est-ce que tu es motivé dans ton chômage? Mon gros problème, c'est de trouver des trucs à faire pendant que mes IA bossent. Ah, merde. Le bore-out quand t'as l'IA qui travaille. Mais moi aussi, on en a déjà parlé hier, mais moi aussi, je vais être remplacé par l'IA. Hein. Moi aussi, je vais être remplacé par l'IA. Je sais pas, peut-être qu'un jour, il y aura une IA qui réussira à avoir le même humour de merde que moi. Et là, ce sera la fin de mon travail. Ce sera la fin de notre... Il n'y a pas besoin d'un être humain pour expliquer l'actualité politique. C'est pas nécessaire. Maintenant que tu es là, mon travail est moins ennuyeux, donc merci Jean, mais de rien. Tu me payes le salaire que j'ai pour rien faire, je prends direct. Ouais, après, non, c'est intéressant, parce que après, c'est aussi une idée... C'est aussi une idée préconçue de se dire que ne rien faire, c'est chouette. Il y a beaucoup de gens qui vivent mal le fait de ne rien avoir à faire. La solitude, l'isolement, etc., c'est aussi des choses qui pèsent sur la santé mentale des gens. C'est toujours l'herbe est plus verte ailleurs, quoi. C'est comme, on en a parlé ce matin dans l'émission, mais c'est le télétravail. Il y a plein de gens qui bossent au bureau, et qui rêvent d'être au télétravail en disant « ce serait tellement bien si j'étais chez moi, la peinard en Charentaise, en train de bosser à distance, etc. » Et c'est un truc que se sont dit beaucoup de gens avant de se retrouver au télétravail. Et en fait, quand tu es en télétravail, bah, tu as d'autres problèmes que tu n'avais pas anticipés, en fait, où tu te rends compte que ce n'est pas si ouf que ça, le télétravail. Tu n'as pas de coupure, tu n'as pas de séparation entre la vie pro, la vie perso, et tout. C'est, non, ça pose des problèmes. Je ne dis pas que c'est pire, c'est une balance à trouver, mais... «
Pour faire court, en cas de trop de remplacements par l'IA, pas de travail, pas de salarié, pas de salarié, pas de pouvoir d'achat, pas de pouvoir d'achat, pas de client, pas de client, pas de CA, pas de CA, pas d'entreprise, pas d'entreprise, pas de palais, pas de palais, pas de palais. Effectivement, l'IA va pas pouvoir remplacer tout le monde. Je pense notamment aux coiffeurs qui vont continuer à pouvoir bosser pendant encore quelques millénaires. Et c'est très bien, on a besoin de coiffeurs. Télétravail depuis 6 ans maintenant, effectivement, ça demande un peu d'organisation. Ouais. Ça demande un peu d'orga. Le télétravail, pour que ce soit bien fait et que ça pèse pas sur la santé mentale, il faut que ce soit un peu organisé. Tu peux pas être en dilettante toute la journée, un peu de boulot, un peu de repos. Je verrai comme ça vient, etc. Faut, disons qu'il y a beaucoup d'expérience. Faut un peu s'organiser, quoi. Quand je télétravaille, je suis 5 fois plus efficace pour mes tâches individuelles, mais j'ai la turbo-flemme d'appeler mes collègues pour le truc anodin reçu par mail. Du coup, je repousse au lendemain. Ah, la procrastination en télétravail. Moi, non seulement je télétravaille, mais en plus, je suis seul avec mon patron toute la journée. C'est-à-dire que moi, quand je vais à la machine à café, je suis avec mon patron. C'est pas facile, hein. Je me le coltine toute la journée. Il est chiant. Il met la pression et tout. Oh, compliqué, hein. Je vais devoir reprendre le boulot après un arrêt psy. Ça m'angoisse à mort. Courage, courage à toi. J'espère que ça va bien se passer. Est-ce que tu te refuses des congés en t'engueulant ? Mais non, mais tu rigoles. Mais moi, prendre des congés quand t'es streamer, c'est pas facile, hein. Parce que je vous rappelle que quand on est streamer et qu'on arrête de streamer, on perd de l'argent. Le coût des vacances, c'est le coût des subs qui ne sont pas renouvelés ou qui ne sont pas pris. Et donc, prendre un mois de vacances, c'est diviser par 2 son salaire. Disons que c'est une décision qui n'est pas facile à prendre, quoi. Est-ce qu'il y a eu du nouveau dans la joute verbale de Villepin-Zemmour ? J'ai pas vu. Je crois pas, non. Pour notre plus grande tristesse, bien entendu. C'est pareil en libéral, quand tu travailles pas, t'as pas d'argent. Ouais, exactement. Aujourd'hui, je me rends compte que personne ne m'a jamais refusé des congés. Eh ben, t'as bien de la chance. Profites-en. Ça, si tes congés ont toujours été acceptés, c'est très chouette. Tu vis pas d'amour du chat et d'eau fraîche. Je ne vis pas d'amour du chat et d'eau fraîche. Je vis de ton sub que tu vas prendre immédiatement. Des nems et des bières, exactement. Exactement. Vous prenez souvent des vacances, genre tous les ans ? Ouais, moi j'essaye de prendre des vacances. Je prends des vacances l'été, je prends des vacances à Noël. Mais je te dis, les vacances d'été, si je fais une coupure des streams pendant plusieurs semaines d'affilée, je divise par 2 mon salaire. Et après, je mets des mois à retrouver mon salaire d'avant. Donc ouais, non, c'est pas... C'est, disons que c'est un calcul que je dois faire, quoi. C'est pas gratuit. Tu arrives à te verser un salaire correct en général ? Oui, moi ça va, ça fait 11 ans que je suis sur Twitch, donc j'ai réussi à faire ma place et j'en vis correctement, je suis très content. Mais c'est pas non plus la folie, quoi. Mais c'est pas grave, enfin, je cherche pas la folie. Si je cherchais la folie, j'investirais dans les cryptos. Les gens qui veulent du fric, ils se lancent pas sur Twitch, ils font pas de la vulgarisation politique sur Twitch. Je vous le dis, le faites pas. Hein. Ah non, le faites pas, c'est une connerie. Hein. Ça marche pas. Tu peux diminuer la fréquence et faire moins de streams et partir tout... pour des périodes de quelques jours. Oui, ça, je peux. Je peux m'arrêter pendant 4 jours. 5 jours. Oui, ça, je peux. De temps en temps. Mais disons qu'une chaîne Twitch, c'est comme un brasier. Il faut l'entretenir. Il faut que la flamme soit toujours là. Il faut souffler sur les braises régulièrement pour entretenir le feu. Et le feu, c'est toi. Voilà, faut continuer à souffler sur les braises parce que sinon tu... Voilà. Tu nous fais rougir là, en effet. Est-ce que tu nous fais une vidéo explicative de ton portefeuille de crypto et des techniques de rendement passif, s'il te plaît? Oui, je vais faire ça. Je vais m'en convertir dans la crypto, je vais devenir influenceur crypto. Et on va regarder les cours de la crypto tous les jours. Stream à 7h du matin, on se réveille, ouverture des marchés. Combien ça vaut le Bitcoin? Et analyse. Je me moque gentiment. Les gens qui font ça, ils ont bien raison de faire ça, c'est leur truc. C'est pas le mien. Ceci dit, si tu pars une semaine pendant la coupure parlementaire, on aura quand même envie de voir la QAG à la rentrée. Ouais, bien sûr. Enfin, bien sûr, ça reste à voir. Hein. Ça reste à voir parce que, encore une fois, d'expérience, je dis, ça fait 10 ans que je fais ce métier, je commence à connaître. Quand tu pars longtemps de Twitch, tu sors des habitudes de consommation des gens. Et quand tu reviens, il faut recréer une habitude de consommation et ça prend du temps. C'est pas dès le premier jour de la rentrée, le public est de retour, bonjour. Faut que ça reparte. Et le temps que ça reparte, ça peut prendre plusieurs mois. On te consomme, vous me consommez. Vous me consommez et vous me consumez tous les jours. Mais je vous aime, donc ça va. Squeezie s'était exprimé là-dessus concernant YouTube. Ouais, Squeezie s'était exprimé là-dessus, ouais. Bien sûr. Je me souviens de ça. Tes longues absences avaient mis en danger ton 70-30? Non. Non, le statut partner, une fois que tu l'as, tu le gardes. Moi, j'ai pas eu de mise en danger particulière. Par contre, mes longues absences pour des raisons de santé m'ont coûté... très cher, évidemment. Tu t'arranges pour qu'il se passe une giga dingues type dissolution à ton retour de vacances et l'affaire est dans le sac. Alors, tu rigoles, mais ça aussi d'expérience. Moi, l'activité de ma chaîne dépend beaucoup de l'actualité politique. C'est évident. Enfin, ça paraît con de le dire comme ça, mais en fait, c'est vrai. Quand il se passe rien et qu'on se fait un peu chier, bah, j'ai moins de viewers, j'ai moins d'abonnés. Parce qu'en ce moment, c'est chiant, en ce moment, tout le monde s'emmerde, etc. Ça a été un peu le cas au moment du marathon budgétaire. Je ne sais pas si vous vous souvenez, le marathon budgétaire, ça a duré 4 mois. Je vous jure que les gens, ils en avaient marre. Hein. Moi, le premier, d'ailleurs, il y a un moment, on avait déjà tout dit. Enfin, c'était interminable, c'était les embrouilles à mini, matin, midi et soir, etc. Clairement, je sentais que le public n'était plus trop là. Quoi. Genre, c'est bon, la politique, ça va, là, c'est bon. Merci. Mais c'est normal. C'est un marathon budgétaire, c'est chiant, c'est technique, c'est pointu, c'est compliqué. Les élections municipales, c'est pas les élections qui soulèvent le plus les foules. Hein. Rappelez-vous, on en a fait des streams, vous et moi, on en a parlé des municipales. Les municipales, il y a 36 000 élections différentes. Chacun est intéressé par sa ville. Les grands enjeux nationaux, ils n'existent pratiquement pas. Ou alors, on parle que de Paris, Marseille et Lyon, mais ça fait chier tout le monde. Il n'y a que les Parisiens, les Lyonnais et les Marseillais qui sont contents. Donc ouais, non, les municipales, c'est pas fou comme élection hein, pour une chaîne comme la mienne. Alors qu'un bon 49-3, là. Hein ? Petite motion de censure, là. Petite motion de censure, on sait pas. Peut-être elle va être adoptée, pas adoptée. Ah ! Bon, bah voilà, ça c'est cool. ça marche. Un mouvement social, les gilets jaunes. Une actualité explosive, genre le Covid. Bon, bah, c'est, d'un seul coup, ça intéresse. Allocution d'Emmanuel Macron, on regarde tous ensemble qu'est-ce qu'il va dire, etc. Confinement, pas confinement. Oui, bah, ça, c'est des moments qui marchent bien sur Twitch. C'est normal. Enfin, qui marche bien sur Twitch, qui marche bien pour ma chaîne, en tout cas. J'aurais pu parier sur un roulement plus régulier, mais c'est probablement un biais de la minorité vocale. Non, non, le roulement n'est pas régulier, hein, il est très irrégulier. Dissolution, champagne pour la chaîne. Ouais, bah la dissolution a très très bien marché pour ma chaîne, évidemment. Je vous rappelle qu'après la dissolution, Backseat n'a jamais eu autant de financement grâce à vous. Pourquoi ? Parce que il fallait des dons pour financer les émissions Backseat pour parler de la dissolution. Vous avez été nombreuses et nombreux, et je vous en remercie, à mettre la main au portefeuille pour soutenir Backseat à ce moment-là. Mmh. 2027, ça va être ta meilleure année ever. Tu sais, je suis un vieux routard. Je suis un vieux routard, j'en ai déjà fait deux des présidentielles sur cette chaîne. Deux. J'en ai vu d'autres. Je connais. C'est pas si miraculeux que ça, une présidentielle. Ça dépend de la présidentielle, ça dépend de comment elle se passe, ça dépend de l'actualité, ça dépend... En fait, je pense, et encore une fois, tout ça est naturel, je pense que ce qui marche le mieux, c'est l'imprévu. Ou l'imprévisible. C'est les trucs où sincèrement, on sait pas ce qui va se passer. Où le score est très serré, ou... Donc on verra. Si, je veux dire, si on fait une élection présidentielle dans laquelle on a Édouard Philippe qui surnage et qui va de toutes les façons être qualifié au second tour, bon, y a pas beaucoup d'enjeux, hein. On sait tous que ce sera Bardella Philippe au second tour, merci, au revoir. Si par contre il y a de la bagarre, etc., il y a plusieurs candidats qui tutoient le second tour, un peu comme ce qu'on avait eu en 2017, hein. Là, ça peut rendre le truc beaucoup plus haletant. J'ai découvert la chaîne à la dernière présidentielle. T'as découvert la chaîne à la dernière présidentielle ? T'as vu le chemin qu'on a fait ensemble, quand même ? T'as vu tout ce qu'on a vécu ? Elisabeth Borne, Gabriel Attal, dissolution, Michel Barnier, François Bayrou, Sébastien Lecornu. Tout ça, on l'a vécu ensemble. Ouais, c'est beau. J'ai découvert Acropolis avec l'émission sur l'Europe. Feeling old, ça date, l'émission sur l'Europe. Dans l'hypothèse où il y aurait une égalité entre deux candidats pour le second tour et un autre qui est devant, il se passe quoi ? L'égalité entre deux candidats à l'élection présidentielle, à ma connaissance, ce n'est pas prévu. Je peux revérifier dans la Constitution si tu veux, parce qu'il se trouve que c'est une élection qui est prévue par la Constitution. C'est une loi organique qui fixe les conditions. Alors, est-ce que c'est le doyen d'âge qui remporte ? Est-ce que c'est ça qui est prévu par la loi organique ? C'est possible. Au municipal, c'est la loi organique. Au municipal, s'il y a une égalité parfaite entre deux listes, ce qui peut arriver, c'est la moyenne d'âge la plus élevée qui gagne. C'est comme ça. Et c'est écrit dans la loi, ça a été prévu. On dit, bon, au cas où. Dans ce cas-là, s'il faut départager, bah, ce sera les plus âgés qui gagnent. Mais à la présidentielle, je t'avoue que je ne sais pas. Je ne sais pas si ça a été prévu, cette possibilité. Est-ce que c'est juste moi où Lecornu a l'air très fatigué ? Il a l'air complètement à l'ouest lors de la conférence de presse. Je suis inquiet pour sa santé. Sébastien Lecornu, il est Premier ministre de la République de la France. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que c'est. C'est une charge, mais d'une puissance. tu te prends une tarte dans la gueule, tu dors 4 heures par nuit, toutes les décisions que tu as à prendre sont des décisions graves, que des arbitrages, que des réunions avec 30 personnes autour de la table que tu dois présider, plus les déplacements, plus l'Assemblée nationale, les questions au gouvernement, les machins, les critiques en permanence, c'est... Non, c'est chaud. Premier ministre, c'est Premier ministre, quoi. Il est Premier ministre, plus ancien ministre de la Défense, en contexte de mention de montée des tensions géopolitiques. Double couche de merdier, je l'envie pas. Non, mais c'est, enfin, ministre, en général, c'est tu dors très peu, hein. Et je ne dis pas ça pour les glorifier en disant que c'est des héros, etc. Je dis juste que, physiquement parlant, c'est un moment de ta vie dont tu vas te souvenir toute ta vie. Parce que tu vas prendre une tarte... Non, c'est vénère. Hein. C'est très, très vénère. C'est un poste de fou. Ouais, c'est un poste de fou. Toutes les personnes de ton camp qui veulent être calife à la place du calife en te mettant des petits coups dans le dos. Non, mais c'est un cauchemar. Le Premier ministre, enfin vraiment, le Premier ministre, il se réveille à 5h du mat. Il se réveille à 5h du mat. Sur son téléphone, il a une centaine de notifications. Il ne regarde que les SMS de son directeur de cabinet pour voir si pendant la nuit, il s'est passé une dinguerie. Ensuite, il boit son café en parcourant des yeux la une des journaux parce qu'il n'a pas le temps de les lire. Ensuite, il mange son croissant en lisant un briefing de sécurité et de défense nationale. Il monte dans une bagnole qui l'emmène à Matignon. Il a à peine le temps de rentrer dans son bureau qu'il a déjà son dircab plus deux conseillers qui viennent l'alerter sur un problème parce qu'il faut vite prendre une décision là tout de suite maintenant. Ensuite, il enchaîne parce qu'il est déjà en retard à sa première réunion où il y a une trentaine de préfets autour de la table pour faire le point sur la mise en place des conseils municipaux de je sais pas quoi, de trucs, de machin. Ensuite, il est 10h du matin, il saute dans une voiture qui l'emmène jusqu'à l'aéroport pour monter dans un jet privé pour partir à l'autre bout de la France pour une visite qui était prévue de longue date pour aller rencontrer des industriels de machin, de trucs. Ensuite, déjeuner de travail, évidemment, déjeuner de travail. Donc, il y a une quarantaine de personnes autour de la table pour faire le point sur machin, truc, bidule et tout, les embrouilles, les machins. Ensuite, il arrive dans l'après-midi. Question au gouvernement à l'Assemblée nationale. Bon, bah là, il est assis sur un petit banc comme un con à écouter des députés lui péter les burnes. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais pendant la séance, le Premier ministre, il lit des documents. En fait, il écoute d'une oreille, mais en fait, il a du boulot, le mec. Hein. Il est Premier ministre. Donc, en fait, il lit des trucs, il lit des notes que lui ont préparé ses conseillers sur des sujets, sur des arbitrages, sur des notes de réunion interministérielle, etc. Machin. En sortant de la séance, il est alpagué par 3-4 députés de son camp qui viennent le voir pour s'engueuler parce qu'ils ne sont pas d'accord avec le fait que le gouvernement ait décidé de décaler l'examen du texte de trucs, de machin, de bidule, de machin. Il repart dans sa voiture. Dans sa voiture, il est au téléphone avec le président de la République, évidemment. Il retourne dans son bureau. Il n'a pas le temps de s'asseoir, évidemment, dans son bureau. Si, il a le temps de passer aux chiottes, quand même. Ensuite, il sort des chiottes. Il retourne dans une nouvelle réunion interministérielle avec des ministres pour faire le point sur les mesures qui ont été prises, sur le prix de l'essence, sur machin, sur truc. Ensuite, il a un rendez-vous protocolaire qui est prévu avec le président de la Cour des comptes et le président de la Banque de France. Et ensuite, il a un dîner de travail. Il a un dîner de travail où il travaille avec encore des ministres, des chefs d'entreprise, des syndicalistes, des machins. Il fait le point, il discute, il truc. Et ensuite, il est 21h. Et là, la journée commence. Sous-entendu, il peut enfin s'asseoir derrière son bureau, qu'il n'a pas vu de la journée. Il peut enfin s'asseoir derrière son bureau et commencer à traiter la pile de dossiers que ses conseillers lui ont préparés, avec des notes, des courriers, des signatures, des décrets. Voilà. Et ensuite, il va se coucher dans son lit à 1h du matin. Et on recommence le lendemain. Il n'a pas des sbires pour faire tout ça. Mais il a que des sbires qui bossent pour lui H24. Hein. Mais les sbires, j'en ai été un, je sais ce que c'est. Les sbires, ils ne dorment pas plus. Hein. Les sbires, ils sont sous l'eau. Hein. Tout le monde est sous l'eau, tout le monde est en retard, tout est urgent, tout est important. On dirait une journée de prépa. Ouais, on dirait une journée de prépa. En termes de rythme, c'est un peu ça. Donc, du coup, pour répondre à ta question, oui, Sébastien Lecornu a l'air fatigué. Et en même temps, ne le serions-nous pas à sa place? Le mec n'a pas de majorité à l'Assemblée. Il n'y a aucun texte qui passe. Tout est compliqué. Tout est conflictuel. Ouais. Je pars du principe que je ferai mieux que tout le monde. Je le sais, on le sait tous. Comme disait Jacques Chirac, la France compte 60 millions d'entraîneurs de l'équipe de France et 60 millions de présidents de la République. C'est pour ça que Baxit s'appelle Baxit. Ne sommes-nous pas là pour baxiter la politique, finalement? Est-ce qu'on ne ferait pas mieux, nous, si on était là? Mais bien sûr qu'on ferait mieux. Tu as été le sbire de qui? J'ai été le sbire de Marisol Touraine, qui était à l'époque la ministre des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des Femmes. Et j'étais l'un de ses conseillers, donc l'un de ses sbires. J'étais un PNJ. C'est une bonne situation, ça, sbire. Ouais, c'est chouette. C'est content, mais c'est chouette d'en partir aussi. Est-ce que tu as bossé sur la réforme des retraites qui porte son nom? Non, la réforme Touraine, la réforme des retraites, elle a été adoptée avant que j'arrive. Moi, je suis arrivé en 2014. Je suis arrivé après les municipales en 2014 et la réforme des retraites, elle avait déjà été adoptée. Par contre, j'ai bossé sur la loi de santé, sur la stratégie nationale de santé. Il n'y avait pas Attal avec toi? Si, il y avait Gabriel Attal qui était mon collègue, et qui, lui, était conseiller parlementaire. Lui, il s'occupait du Parlement. Et moi, je m'occupais des discours. J'écrivais les discours. J'étais plume, comme on dit dans le jargon. Tu retiens quoi de cette période? Je retiens que même quand t'as une majorité absolue, c'est compliqué. Ouais. Non, y a rien n'est magique et rien n'est gratuit. C'est le bordel, tout le temps. Tout est compliqué. C'est normal que j'entende plus à droite qu'à gauche, ou c'est juste chez moi? Maintenant, c'est toi. Tu as une tendance à mieux entendre la droite que la gauche. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, après, c'est toi qui vois. Mais moi, j'y suis pour rien. Attal a-t-il le melon comparé à quand tu l'as connu? J'en sais rien. Après, moi, j'ai pas passé beaucoup de temps avec lui. Et surtout Gabriel Attal, il a eu une carrière depuis. Enfin, je veux dire, moi je l'ai conseillé, je l'ai connu, on était tous les deux conseillers ministériels, et après il est devenu député, ministre, premier ministre, enfin chef de parti, etc. Enfin, je veux dire, maintenant Gabriel Attal, il a une vie qui n'a plus rien à voir avec ce que c'était quand je l'ai connu. Donc, je peux pas comparer, j'en sais rien. Ne l'aurions-nous pas tous été? Premier ministre à 36 ans. C'est pas tous les jours. Hein. C'est pas tous les jours. Tu préfères ta vie ou la sienne? Mais moi, j'ai aucune envie d'être chef de parti. Hein. Moi, j'ai pas envie d'être président de la République de la France. Hein. Enfin, non pas que je méprise les gens qui ont cette ambition-là, mais c'est tellement pas la mienne que moi, ma vie, elle me va. T'imagines, si j'avais une vie comme la sienne, j'aurais pas le chat? J'aurais pas le chat? C'est pas possible. C'est pas possible. Moi, je peux pas accepter ça. Non. Jamais. C'est parce que tu veux pas être président que tu traces pas. Tout s'explique. Oui, voilà, exactement. Attal, le Premier ministre, c'est la personne qui m'a fait revenir sur une idée que j'avais. Peut-être que les jeunes à la tête du pouvoir, c'est pas si bien que ça. Oui, peut-être que c'est indépendant de l'âge aussi. Enfin, je veux dire, la qualité. La personnification en politique, ça a ses limites aussi. C'est pas parce qu'une personne est jeune qu'elle va faire des bonnes choses. Enfin, ça marche pas comme ça. C'est comme une femme, un homme. C'est pas parce que c'est une femme qu'elle va prendre des bonnes décisions, des décisions qui vont plaire. Enfin, ça fait intervenir tellement plus de choses que voilà. Après, Giscard était jeune aussi quand il a été élu, on ne croirait pas. Oui, bien sûr, Giscard, c'était un président très jeune. À l'époque, il avait quel âge, Giscard, quand il a été élu? Il avait moins de 50 ans, je crois. Il avait moins de 50 ans, Giscard, quand il a été élu président de la République. 48 ans, voilà, bah tu vois, 48 ans. Je vous rappelle qu'il succédait à Georges Pompidou et Charles de Gaulle. À l'époque, ça a été un vent de fraîcheur, hein. Est-ce que le rythme de vie des ministres et des conseillers ne devrait pas être repensé ou revu dans le sens où, outre l'aspect santé, ce ne sont pas des bonnes conditions pour prendre des décisions? En fait, le rythme de vie d'un ministre ou d'un conseiller ne relève pas d'une décision. C'est décidé par personne. C'est la nécessité. C'est comme ça. C'est comme ça. Tu peux pas ne pas faire. Macron sera plus jeune en fin de mandat que Giscard au début. Macron, il a été élu président de la République à 39 ans. Et il va quitter le pouvoir à 49 ans. Donc, à un an près, ça aurait pu être vrai. Ça relève un peu de la centralisation du pouvoir tout de même. Ah non, c'est encore plus fatigant quand le pouvoir est décentralisé, hein. Enfin, après, c'est une question de conviction politique, mais quand tu fais des concertations publiques, quand tu fais des conventions citoyennes, quand tu fais participer les gens à la décision, ça prend encore plus de temps et ça provoque encore plus de problèmes de. Non, d'un certain point de vue, la centralisation du pouvoir, c'est peut-être le meilleur truc pour ralentir le rythme. Hein. T'es seul dans ton bureau, tu signes un décret. Alors, ça, personne va te faire chier. Bon, après, tu vas gérer les manifestants, mais ça, c'est ton problème. Bon courage. La douche froide, Macron 2032. Macron 2032, il aura quel âge? il aura 49 ans plus 5, il aura 54 ans. C'est encore jeune, hein. C'est encore relativement jeune, hein. Quand on voit le paysage politique, on a des gens de 60 ans, 70 ans, etc. Lui, s'il revient au pouvoir en 2032, il sera pas vieux, hein. Il sera dans la fleur de l'âge. C'est pas sûr qu'ils reviennent. Non, bien sûr que non, c'est pas sûr qu'ils reviennent, on n'en sait rien. On n'en sait rien, mais... Merci Thomas. On n'en sait rien, mais sur cette chaîne, on a décidé de partir du principe qu'il y a quand même des chances qu'il essaye de revenir un jour. Quand même. Ce serait bien le premier ancien président de la République qui n'essaye pas de revenir. Sauf ceux qui étaient vraiment trop vieux. Ça, eux, effectivement, bon. Voilà. Mitterrand a eu du mal à essayer de revenir. Mitterrand, c'était cuit. Hein. Mitterrand, il était très vieux, très âgé, très malade, surtout. Donc, c'était fini, Mitterrand. Chirac aussi. Chirac, bien sûr que c'était fini. Il n'avait pas... C'est fini. Macron ne pourra revenir en 32 car Hollande refera un deuxième mandat consécutif. Ah ouais, ça veut dire que le second tour de l'élection présidentielle de 2032, ce sera Hollande contre Macron et c'est Hollande qui gagnera. Et du coup, il y aura un deuxième mandat de Hollande. Ça veut dire qu'entre 2012 et 2037, les gens n'auront connu que deux présidents différents. Ça me paraît bien, ouais. Ça me paraît bien. T'imagines, les jeunes qui découvrent la politique en 2012, ils se retrouvent en 2037, ils ont trois enfants qui vont au collège ou au lycée. Et ils ont encore Hollande président. C'est toujours lui, il est toujours là. C'est un peu poutinien. Oui, c'est un peu poutinien, à la différence près qu'il y a des élections libres en France, quand même. Ça aura été le choix du peuple souverain. Ah non, le peuple a choisi. Le peuple, il avait le choix, il a choisi. Après, le peuple a le droit d'être saoulé par sa propre décision, tu vois. Genre vraiment de... Ouais, non. Non, c'est chiant. Franchement, entre Mitterrand, Chirac, la durée des quatre mandats, c'est long avec deux présidents. Et encore, aujourd'hui, c'est 5 ans seulement. À l'époque, c'était 7 ans. Mitterrand, c'est 14 ans à l'Élysée. 14 fucking années à l'Élysée. Tu m'étonnes que la droite, ils ont tout raflé dans les années 90. Disons que l'envie de changement était assez vénère. On parle quand même un peu sur une hypothèse lunaire que Hollande revienne. Mais Hollande revient, hein ? Non mais Hollande revient. Non mais là, faut être clair. Déjà qu'en 2024, il s'est fait élire député. Déjà sur cette chaîne, à l'époque, je vous rappelle qu'on se disait dis donc, il n'a pas l'ambition d'être que député, le Hollande. Et là, il nous sort « Je me prépare ». Alors, on est sur un comeback, là. Hein. On est sur un giga comeback. Il revient, mais qu'il soit élu président, il y a encore un pas.
Ah !
Ah oui, ça c'est autre chose. Non, mais ça c'est autre chose. Disons que Hollande revient,
certes,
mais le peuple français le souhaite-t-il ?
Ah ! Là, c'est... Oui, bon, non, mais... Plus compliqué, plus compliqué. Faut voir.
Disons que il y a quand même peu de chance pour que un mouvement se lève dans l'année qui vient en faveur de François Hollande. J'en doute sérieusement.
Mais
Hollande a déjà réussi à nous surprendre par le passé. Voilà. Déjà, est-ce que le PS le souhaite ? Oui, c'est ça. Est-ce que... On va commencer par le PS. Est-ce que le PS souhaite le retour d'Hollande ? Quelques-uns au PS, peut-être. Si le peuple vote majoritairement blanc, comment ça se passe ? Indirectement, le choix du peuple est ni l'un ni l'autre. Non, les bulletins blancs sont comptés comme des bulletins nuls. Ils ne sont pas comptabilisés dans le comptage des résultats. Donc ça ne change rien. Personne au niveau de la base militante ne le souhaite.
Bah, c'est-à-dire que, alors,
je ne suis pas un solférinologue professionnel, mais le PS en 2017 a clairement, très clairement pris un virage critique de François Hollande. Mais ça, c'était le PS de 2017, là où Olivier Faure est devenu premier secrétaire. À partir de 2024, et encore plus depuis le dernier congrès, le Parti socialiste est divisé en deux entre une aile critique de Hollande, qui est l'aile d'Olivier Faure, et une aile plutôt proche de Hollande, ou à minima de son option politique, qui est la social-démocratie. En tout cas, c'est comme ça qu'il l'appelle. Donc il y a un peu un 50-50 chez les socialistes. Ce qui est intéressant d'ailleurs d'analyser, de se dire qu'en fait les socialistes n'ont toujours pas réglé la question depuis 2017. Qu'est-ce qu'on fait du hollandisme ? Est-ce qu'on le bazarde ou est-ce qu'on le ressuscite ? Faure veut sortir de la social-démocratie. Ah oui, oui, Faure, il est opposé à la social-démocratie. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a la présentation du programme du Parti Socialiste par Chloé Ridel, donc qui est chargée du projet socialiste au sein du parti. Et Chloé, elle est clairement anti-Hollande. Elle a toujours été, d'ailleurs. Et Olivier Faure est clairement anti-Hollande. Olivier Faure et François Hollande se détestent. Hein. Ils peuvent pas se piffrer. Bon, c'est une notoriété publique, hein, pour le coup. Comment ça se définit le hollandisme déjà ? Quand on avait reçu François Hollande sur le plateau de Backseat, j'avais demandé à Thomas Legrand de définir le hollandisme et il avait répondu un truc pas mal. Il avait répondu un truc du genre le hollandisme, c'est une tentative d'appliquer en France la social-démocratie allemande sans le soutien de corps intermédiaires puissants et de syndicats qui font l'interconnexion. C'est un modernisme à la Schröder et à la Tony Blair. Ouais, c'est une espèce de gauche moderne. C'est un retour de la deuxième gauche de Rocard dans un contexte de faible soutien et du camp du travail et de la population pour cette option politique-là. Ils se détestent, c'est juste des histoires d'ego ou bien programmatiques. Ah non, c'est programmatique. C'est politique. Olivier Faure est opposé à François Hollande. Olivier Faure, il est proche des frondeurs du hollandisme, qui étaient les socialistes qui ne soutenaient pas Manuel Valls. C'est programmatique. Il y a une opposition entre la politique qui a été menée par François Hollande quand il était à l'Élysée et ce que défend Olivier Faure. Quand Olivier Faure a été élu à la tête du Parti Socialiste en 2017, après la présidentielle, il a fait adopter une motion, je ne sais pas si c'était une motion ou un texte d'orientation à l'époque, extrêmement critique du hollandisme. C'était vraiment un droit d'inventaire assez sec, en mettant en avant des choses, disons, à l'actif de François Hollande, en disant il y a des choses bien qu'on a fait, on a fait le mariage pour tous, on a fait la loi territoriale, on a fait le compte pénibilité, on a fait des trucs cool, mais virgule, le CICE, la loi travail, la déchéance de nationalité, un certain nombre de décisions que, pour le coup, le Parti Socialiste ne soutient pas et ne retient pas, quoi. Ça a été un droit d'inventaire, pour reprendre l'expression de Lionel Jospin, qui a été très rapide après la fin du quinquennat de Hollande. Est-ce que Hollande assume le hollandisme ? Oui, évidemment, enfin, c'est ce qu'il nous avait dit sur le plateau de Baxit. Oui, François Hollande assume le hollandisme. Des décisions difficiles ont été prises dans un contexte qui imposait ces décisions. On a dû faire face à des crises multiples, à une situation des finances publiques qui était bien plus dégradée que ce que Nicolas Sarkozy avait bien voulu présenter. Les chiffres étaient faux. On a dû faire face aussi au terrorisme pour la première fois. Enfin, voilà, c'est tout un ensemble d'arguments qui justifient une politique, pour le coup, très impopulaire, quoi. Est-ce que François Hollande critique le retour de François Hollande ? Faudrait lui demander. Qu'est-ce qu'il en pense du retour de François Hollande ? De Villepin n'assume pas le villepinisme. De Villepin est critique d'un certain nombre d'épisodes quand il était lui-même au pouvoir. Il est critique de décisions qu'il a prises lui-même. De Villepin est critique de la privatisation des autoroutes. Il est critique du CPE. Il est critique de la gestion des émeutes dans les banlieues après la mort d'Osier Debouna. Alors, il met ça sur le compte de Nicolas Sarkozy, ce qui n'est pas faux, Sarkozy était ministre de l'Intérieur, mais c'est quand même lui qui a instauré l'état d'urgence. Hollande a regretté la déchéance de nationalité. Oui, François Hollande a regretté la déchéance de nationalité. Il l'a dit dès son discours de fin de mandat. Il était encore président de la République quand il a dit clairement face caméra que la déchéance de nationalité avait été une erreur. Et qu'il aurait jamais dû le faire. Ouais, ça je me souviens. Est-ce qu'on a des exemples de comeback en politique réussi, à l'exception d'une élection en Corrèze ? Est-ce qu'on a des exemples de comeback réussi en politique ? François Bayrou ? Oui, De Gaulle, oui, De Gaulle, oui. Et forcément De Gaulle, oui. Juppé, c'est pas vraiment réussi, il a pas gagné. Chirac. D'un certain point de vue, Chirac, hein, il a été Premier ministre dans les années 70, et Premier ministre dans les années 70 et président de la République en 1995. Une forme de comeback. Il n'a pas vraiment quitté la politique, mais... Donald Trump. Ouais. Le comeback réussi, Donald Trump. Mitterrand a jamais fait de comeback. Mitterrand a été candidat à la présidentielle, il a perdu deux fois avant d'être élu. C'est tout. Mais c'est pas un comeback. Il a pas été battu avant de revenir. Vals. Peut-on parler de comeback pour Manuel Valls dans le sens où c'est pas passé par une élection? Il a été Premier ministre, puis il a essayé d'aller se présenter à Barcelone, il n'a pas réussi, il est revenu en France, il a fait sa traversée du désert et il est redevenu ministre. Mais ministre, c'est une nomination, c'est pas une élection, donc je sais pas. Catherine Trottmann à la mairie de Strasbourg. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Catherine Trottmann à la mairie de Strasbourg, ouais. Ouais, elle a été réélue cette année, ouais. Ouais, non, c'est intéressant. Enfin, disons que j'ai l'impression qu'on a plus d'exemples de comeback ratés que de comeback réussis. On a parlé d'Alain Juppé, Nicolas Sarkozy, qui a tenté, qui n'a pas réussi. Bon, là, on a De Villepin et Hollande. Point d'interrogation. Mais ça paraît pas gagnant. C'est quoi un comeback? Retour au même poste ou arriver à ses fins après une traversée du désert? C'est une bonne question que tu poses, j'en sais rien. Non, t'as raison, j'y ai pas réfléchi, mais c'est oui, c'est soit retrouver un poste qu'on a eu par le passé, ou à minima un niveau similaire de poste, on va dire ça comme ça, après une période de traversée du désert, oui. Il a été conseiller municipal de Barcelone, il s'est allié à Vox pour conserver son poste pour au final démissionner car condamné pour dépassement de frais de campagne avant de revenir en France. C'est pas un comeback pour Valls. Même en ministre des Outre-mer, il a été transparent. Alors je dirais pas transparent pour le ministère des Outre-mer parce qu'il a quand même géré pas mal de trucs, notamment les accords de Bougival. Pas trop parler de transparence, mais ouais. Mais si, c'est un comeback dans la politique française pour Manuel Valls. Il a quitté la France. Ça s'est mal passé, il est revenu. Bruno Le Maire, le comeback. Non, Bruno Le Maire n'a pas fait de comeback. Je ne sais même pas s'il essaye d'en faire un, là, d'ailleurs. Est-ce que Bruno Le Maire a l'intention d'être candidat à la présidentielle? Je crois pas. À ce stade, j'ai pas d'infos, peut-être, mais... Dominique Strauss-Kahn? Non. Non, Dominique Strauss-Kahn n'a pas fait de comeback. Dominique Strauss-Kahn a été ministre de l'économie sous Jospin, puis il a tenté d'être candidat en 2012. Et il n'a pas réussi pour des raisons que vous connaissez. On ne peut pas vraiment parler de comeback. Il a été patron du FMI entre-temps, oui, c'est vrai. Il a été patron du FMI entre-temps. Oui, c'est vrai. Est-ce que le PS a annoncé son programme? Alors, je crois que c'est en cours, c'est aujourd'hui. C'est ce matin ou cet après-midi, je ne sais pas, qu'il y a... une conférence de presse au Parti Socialiste pour présenter le programme, en tout cas le projet pardon, du parti, à défaut d'être un projet très exhaustif, je crois que ça va être les premiers éléments qui vont être dévoilés. Qu'est-ce que j'avais vu un article de Libé. Libé. Ils n'ont pas fait un article ce matin pour dévoiler quelques pans du projet des socialistes. Ils en sont où, les socialistes? Alors, il y a une interview de Chloé Ridel, ça, d'accord. Il est où le programme du parti? Merde, je retrouve pas. Attendez, faut que je me connecte. J'ai pas lu l'interview de Chloé. Voilà, il est là l'article. Alors, on va regarder un petit peu ce que Libé a publié sur... Hop là ! Nouveau socialisme, le programme du PS, six grandes idées pour la présidentielle de 2027. Ah ! Retraite, environnement, fiscalité, éducation. S'il n'a toujours pas de candidat désigné pour la présidentielle, et il ne sait toujours pas comment il va le désigner d'ailleurs, ah, le Parti Socialiste s'est doté d'un projet présenté ce mardi devant le Bureau National qui entend définir un nouveau socialisme pour le 21e siècle. Libé fait le point sur les propositions mises dans le débat. Et là, on a quoi ? On a Olivier Faure, Lydie Massard, Raphaël Glucksmann. Ça, c'est Léa Balage, Boris Vallot, évidemment, et Yannick Jadot, tiens, Yannick Jadot qui est venu en guest. À un an de la présidentielle, le Parti Socialiste n'a pas de candidat désigné, ni même de consensus sur la manière de le choisir, comme l'a très bien ironisé Jean Massier. Mais il vient de se doter d'un projet présenté ce mardi 21 avril devant le Bureau National, avant d'être envoyé dans les fédérations. Il n'a pas encore de titre définitif. Vivre libre est celui provisoire qui sera soumis aux militants. Vivre libre, le titre du projet socialiste. C'est bizarre comme titre. Mais je crois que j'avais entendu Chloé Ridel dire qu'elle voulait choper la notion de liberté à la droite, en disant qu'il y en a ras-le-bol que la droite fasse une OPA sur la notion de liberté, alors que ceux qui défendent la liberté, les libertés collectives, c'est la gauche. C'est la gauche qui défend la liberté des femmes, la liberté des migrants, la liberté des malades, la liberté des personnes handicapées. Et la droite, c'est l'oppression, c'est anti, c'est contre la liberté. Je crois que je me souviens d'un argumentaire comme ça. Le nouveau socialisme pour le 21e siècle, qu'il entend définir, règle son sort à la social-démocratie. Vous voyez ce que je vous disais ? Chloé Ridel, Olivier Faure, ils veulent dégager Hollande. Modèle qui a permis des progrès sociaux considérables, mais n'a jamais pris en compte les limites planétaires, n'a pas effacé les inégalités entre les hommes et les femmes, ni les discriminations racistes. Ce modèle doit être dépassé, peut-on lire dans l'introduction de ce document de plus de 140 pages, ce qui ne manquera pas d'en faire tousser certains, comme Bernard Cazeneuve et François Hollande, qui se revendiquent toujours de la social-démocratie. Ah, les règlements de compte au PS, on adore. Organisé en six parties, de vivre libre à être en sécurité et refaire société, et 20 chapitres, il recense entre 600 et 800 mesures, certaines détaillées, d'autres non, et rarement chiffrées. Ah, le chiffrage viendra plus tard, faut croire. C'est d'ailleurs un écueil majeur de ce projet, alors que le déficit public français est toujours l'un des plus élevés de la zone euro. La coordinatrice de ce travail, Chloé Ridel, s'en défend dans un entretien à Libération. Il est normal que le projet ne soit pas précisément chiffré à ce stade. Il doit encore être débattu et amendé par nos militants. Justice fiscale, lutte contre la pauvreté, indépendance des médias, réforme des retraites, lutte contre le dérèglement climatique, refondation de l'école. Voici les propositions mises dans le débat. Alors, les retraites. On va commencer par les retraites. 62 ans, 43 annuités, retour des 10 critères de pénibilité. Bref, c'est la réforme Touraine. Voilà. Bon, ça, pas de surprise. Le PS reste sur le consensus de 2022, soutien à la réforme Touraine. Rien de nouveau, c'est les socialistes qui ont fait cette réforme. En cas d'abrogation de la réforme Borne, on retournait sur la réforme Touraine. Toute la gauche a voté pour ça. Bon. Les socialistes qui ont obtenu du gouvernement Le Cornu à l'automne une suspension de la réforme Borne comptent l'enterrer. Exit le passage de l'âge légal de départ à 64 ans. Il revient à 62 ans pour jouer un rôle de protection minimale pour les salariés. En revanche, la durée de cotisation est fixée à 43 annuités dans ce projet qui défend le système par répartition. Ce même but avait été affiché en 2014 dans la réforme Touraine, pour être atteint en 2035 et dans celle d'Elisabeth Borne qui avait accéléré, rappelez-vous, à 2027. On en avait parlé longuement de l'accélération du calendrier Touraine par la réforme Borne. Dans son projet, le PS ne précise aucune date. Ah, le PS se garde bien de préciser une date de mise en œuvre des 62 ans. Eh ben oui, parce que c'est ça qui va déterminer le chiffrage. Il ajoute néanmoins que cette durée pourrait être réduite, par exemple pour les carrières hachées par le temps partiel ou l'accueil d'un enfant pour les métiers dits pénibles. La pension de droit direct des femmes est près de 40% inférieure à celle des hommes. Sont mentionnés les 10 critères de pénibilité de la réforme Touraine, ce qui implique le retour des 4 critères supprimés par Macron, dont les charges lourdes et les postures pénibles. Là aussi, pas de surprise, les socialistes veulent remettre ce que les socialistes avaient mis et que Macron a retiré. Un sujet récurrent de discorde entre patronat et syndicats. En matière de financement du système, il propose de flécher les revenus de l'imposition du capital, d'assujettir aux cotisations sociales certains compléments de salaire attribués aux plus hauts revenus, tels que les dividendes ou les actions gratuites, ainsi que les revenus tirés des heures sup pour les salaires de plus de 3 SMIC. D'accord, ok. Oui, pour les heures sup des plus hauts revenus, d'accord. Oui, bon, en gros, taxer les riches pour filer aux retraités. La hausse du taux d'emploi des jeunes, des seniors et des femmes est aussi mentionnée, sans que le chemin pour y parvenir ne soit indiqué. Oui. Ça, c'est... Oui. Évidemment. Moi, je propose pour la présidentielle un meilleur taux d'emploi des jeunes, un meilleur taux d'emploi des seniors et un meilleur taux d'emploi des femmes. Qui vote pour moi ? La définition de ce nouveau système ferait l'objet d'une conférence sociale. Évidemment, il n'est donc pas question pour l'heure d'introduire un passage à un système à points, comme la CFDT l'a longtemps défendu et comme Emmanuel Macron a tenté de le faire. Rappelez-vous, c'était la réforme de 2019 de Édouard Philippe. Ni d'introduire une dose supplémentaire de capitalisation dans le système, contrairement à ce que le patronat et une partie de la droite réclament de plus en plus bruyamment. Ça, la gauche ne veut pas entendre parler de capitalisation. Environnement. Bon, encore une fois, hein, sur les retraites, comme je vous l'ai dit, il n'y a rien de surprenant là-dedans. Voilà, le PS propose ce que le PS a fait par le passé. Et sur les méthodes de financement, il y a une partie qui est assez précise sur des prix sur les plus hauts revenus et sur la taxation du capital. Et le reste, disons que ce sont des incantations. Grâce à la croissance, on va réussir à financer. Oui. Dans l'idée, oui. Mais qu'est-ce qu'on fait si on n'a pas de croissance ? Environnement. Si les rédacteurs du programme préfèrent la notion de nouveau socialisme à celle d'éco-socialisme, éco-socialisme, c'était le terme qui avait été utilisé par Jean-Luc Mélenchon lors de sa campagne de 2017, je crois, si je me souviens bien. On trouve un certain nombre de principes ambitieux pour mener à bien la bifurcation écologique, terme également employé par la France insoumise. Notamment une grande loi foncière pour favoriser la reprise des exploitations agricoles françaises à l'heure où toute une génération s'apprête à partir à la retraite, pour les protéger de la prédation des fonds d'investissement. Ok. Mais aussi l'interdiction des produits étrangers contenant des pesticides prohibés en France pour éviter la distorsion de concurrence. Rappelez-vous des débats sur le traité Mercosur. L'idée qui a été défendue par la gauche, c'est qu'il ne faut pas importer en France des produits qui ont été cultivés avec des intrants interdits en France, même si c'est à l'autre bout du monde. Donc, principe d'équilibre et de réciprocité, quoi. Ok. Ou encore la création de lettres de plafond écologique pour fixer à chaque ministère des objectifs climatiques opposables lors des arbitrages budgétaires. Alors, ça, je ne sais pas ce que ça veut dire. Les lettres de plafond budgétaires, ça existe pour les ministères pour tenir leur budget. Chaque ministre a une lettre de plafond qui lui est envoyée par le ministère du budget et il doit rentrer dans le plafond chaque année. Il doit faire des coupes si nécessaire, faire des économies, tout ça, tout ça. Mais alors, les lettres de plafond écologiques pour fixer à chaque ministère des objectifs climatiques opposables, celle-là, je ne l'ai pas. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne sais pas comment ça marcherait, quoi. C'est des plafonds d'émissions carbone. Mais oui, mais comment tu fais des plafonds d'émissions carbone par ministère ? C'est pas les ministères qui émettent du CO2. Qu'est-ce que le ministère des Outre-mer il va faire? Qu'est-ce que le ministère des anciens combattants il va faire? C'est quoi son plafond d'émissions carbone? Des plafonds d'émissions carbone pour des acteurs économiques, ça a du sens. Des entreprises, des usines, des sites de production, même l'agriculture, on peut y réfléchir, tu vois, mais pour des ministères, tu peux chiffrer les impacts carbone de tes mesures, ça existe en étude d'impact déjà. D'accord. Tu peux chiffrer les impacts carbone des mesures des ministères. Franchement, ça va concerner que le ministère de l'économie et le ministère de l'agriculture. Hein. Tu vois, le ministère de l'éducation nationale, qu'est-ce que tu veux que ça... ouais, le chiffrage, je l'ai pas. Bon. Non, mais pourquoi pas, pourquoi pas, hein. Peut-être que je fais face à ma méconnaissance. À l'abîme de ma méconnaissance. Ok. Le projet du PS propose aussi la création d'un parquet environnemental spécialisé pour faire appliquer le droit de l'environnement. C'est une bonne idée, ça. Un parquet environnemental. La nationalisation des autoroutes. Coucou Dominique de Villepin, on t'embrasse. L'alignement de la taxation du kérosène sur les autres carburants. Ah bah ça, le kérosène, c'est pour les avions. La rénovation des bâtiments qui consomment à fond pour l'éducation. C'est pas le ministère de l'Éducation nationale qui s'occupe des bâtiments. Je vous rappelle que les écoles appartiennent aux collectivités locales. C'est pas le ministère qui gère les bâtiments. Après, ça t'empêche pas de donner des critères, d'obliger les collectivités à rénover les écoles. Mais ce serait sympa de leur filer du fric pour le faire. Coucou l'État, on t'embrasse. Donc, nationalisation des autoroutes, alignement de la taxation du kérosène sur les autres carburants, création d'un pass carbone pour rendre progressive la surtaxe sur les billets d'avion selon le nombre de trajets effectués pour les individus, mais aussi les entreprises et les clubs sportifs. Tout en garantissant une continuité territoriale aux ultramarins. Alors ça a toujours été un sujet, évidemment. C'est difficile d'empêcher les ultramarins de prendre l'avion pour se rendre dans l'Hexagone et pour rentrer chez eux. Le pass carbone, en gros, on aurait un nombre de vols autorisés par an. Et si on dépasse notre quota, on doit payer. Pourquoi pas ? Mais aussi les entreprises et les clubs sportifs. Ah, les clubs sportifs, rappelez-vous, c'est les clubs de foot qui font que des déplacements en avion et jamais en train. Il y avait eu des embrouilles dans les négociations avec la SNCF là-dessus. La carte carbone juste pour des billets d'avion mesurait un peu, mais pourquoi pas. Ouais, ça me fait penser à un truc qu'avait dit Jean-Marc Jancovici une fois dans une interview. Il avait dit on pourrait imaginer d'avoir un quota de vols en avion ou de kilomètres qu'on a le droit de parcourir en avion, mais sur toute la vie. C'est-à-dire qu'en gros, dans une vie, tu n'as le droit que au maximum de carbone que peut émettre un être humain, c'est-à-dire deux vols. Alors, tu les prends quand tu veux, hein. Mais par contre, tu n'as le droit qu'à deux vols dans ta vie. C'est tout ce que la planète peut encaisser. Alors évidemment, c'est une proposition très provoque, mais qui a le mérite de poser la question de la limite planétaire et de... Voilà quoi. C'est une sacrée atteinte à la liberté. Ouais, c'est une atteinte à la liberté de polluer, ouais. Toujours le même débat, hein. Pardon, mais depuis la taxe carbone, on n'a pas changé de débat, hein. C'est toujours pareil. Alors, il propose aussi un encadrement du système tarifaire du TGV pour baisser le coût des billets de train, une avance remboursable sans intérêt pour rénover les passoires thermiques. Ah, c'est pour les propriétaires de logements qui n'ont pas les moyens de payer une rénovation thermique de leur logement. C'est une forme de prêt déguisé où l'État t'avance le pognon et tu le rembourses plus tard, sans intérêt. Ouais, je l'ai. Pourquoi pas, pourquoi pas? Oui, pourquoi pas? Autant de pistes qui raviront l'écosystème écolo. Oui, ça, je suis d'accord. Là, clairement, bon, voilà. Environnement, de toute façon, entre nous, hein, entre le PS et les écologistes, il n'y a pas beaucoup de différence. Sauf le nucléaire. Ce qui n'est pas un petit point. Mais bon, là, ils n'en parlent pas. Là, ils n'en parlent pas. Salut, Ecladus. Fiscalité. IGS, taxe Zuckman et refonte de l'impôt sur le revenu. Alors, le pognon. Comment on fait rentrer des ronds dans les caisses de l'État? Comme souvent dans ce projet, tout commencerait par une consultation, en l'occurrence, des États généraux de la justice fiscale. Oui, bon, ça, c'est les socialistes, on ne les changera pas. Ils font des concertations et des consultations. Dans l'absolu, pourquoi pas, ne sommes-nous pas des démocrates nous-mêmes? Ce qui n'empêche pas le PS de citer des mesures. Après l'ISF, voici l'IGS, l'impôt sur les grandes successions, avec un rendement attendu de 400 milliards d'euros d'ici 2040, c'est beaucoup, hein. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Pendant la période de la grande transmission, quand les baby-boomers transféreront entre 5 000 et 10 000 milliards d'euros. Oui, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les boomers, ils sont en train de vieillir. Ce qui pose des problèmes sur le financement des retraites. Mais ne parlons pas des retraites. Parlons de l'étape d'après. Quand les boomers, ils vont crever, parce qu'il y a un moment, ça va arriver, et ben, les boomers, ils vont transmettre en héritage à leurs enfants entre 5 000 et 10 000 milliards d'euros. Et comme l'ont très bien démontré Zucman, Piketty et plein d'autres économistes, il y a une énorme injustice dans la transmission de ce patrimoine par l'héritage. Merci, Poka. Cette IGS, donc, ne concernerait que 1% des Français, précise le PS, conscient que toute réforme de la fiscalité de l'héritage est impopulaire. Ça, c'est vrai. Les Français n'aiment pas la taxation de l'héritage pour des questions de valeur, pour des questions de symbole. On n'aime pas être taxé sur quelque chose que l'on transmet à ses enfants. Il y a quelque chose d'intime. Ça ne regarde pas l'État et l'État ne doit pas taxer ça. Ça, c'est une perception très ancrée dans l'opinion publique. Seraient prises en compte les transmissions patrimoniales au cours de la vie, dans l'assiette des droits de mutation à titre gratuit, ça c'est les donations notamment. Le barème serait plus progressif qu'aujourd'hui, avec un abattement unique de 200 000 balles au cours de la vie. Ah, t'as un abattement sur les 200 000 premiers euros. Oui, d'accord, ok, bon, ça c'est pour les moins riches. Et un prélèvement forfaitaire sur les plus-values latentes des valeurs mobilières transmises par les plus hauts patrimoines qui seraient créés. Attends quoi? Un prélèvement forfaitaire sur les plus-values latentes? Des valeurs mobilières, donc des actions. Donc si tu fais une bascule sur les valeurs mobilières quand tu la transmets, tu payes un prélèvement forfaitaire. Ok. Admettons. Ouais. Quant au pacte Dutreil, censé faciliter les transmissions familiales d'entreprises pour un coût massif, ces conditions seraient durcies. Ah, les transmissions d'entreprises. Ça aussi, le pacte Dutreil, les grosses engueulades à l'époque sur la transmission d'entreprises, l'artisan qui transmet sa boutique à son enfant qui reprend la boutique. Et les gauchistes qui veulent taxer ça, les salauds. Ils n'aiment pas le travail de toute façon, ils n'aiment pas la réussite. Je rigole. Contrairement aux espoirs du gouvernement et du patronat que ce sujet finisse par quitter le débat public, le PS garde la taxe Zuckman parmi ses objectifs. Il ne défend pas un de ses ersatz comme à l'Assemblée nationale. Rappelez-vous quand le PS avait proposé une version light de la taxe Zuckman, ce que Gabriel Zuckman avait critiqué sur le plateau de Baxit, mais qui avait quand même été voté par les Insoumis, parce que toute la gauche avait voté la version light comme amendement de repli à la taxe Zuckman. Donc il ne propose pas un amendement de repli, là, il propose bien la taxe Zuckman. un taux de 2% sur les patrimoines des fortunes au-delà de 100 millions d'euros. Il s'accompagne d'un rétablissement d'une forme d'exit tax qui avait été supprimée par Macron et d'un dispositif pour les fortunés au patrimoine non liquide, détenteurs de parts de société par exemple, pour qu'ils puissent l'acquitter sous forme d'action avec un droit de préemption leur préservant la possibilité de racheter ces titres. Ouais. Oui, c'était, oui, c'est ça, c'était l'argument qui était avancé par les macronistes à l'époque de la taxe Zucman en disant « Oui, mais vous allez taxer du patrimoine qui n'est pas un patrimoine liquide, mais des patrimoines qui ne sont que comportés d'actions, des gens qui possèdent des actions de leur propre entreprise. » C'était le fameux argument des startups. Quelqu'un qui crée une startup, il n'a pas d'argent. Il crée une boîte, mais la boîte est valorisée énormément, ce qui fait qu'il a virtuellement beaucoup d'argent, mais il n'a toujours pas d'argent, le mec. Du coup, comment vous voulez le taxer alors que le prix d'une action ne vaut que le jour où il y a vente d'action. C'était un argument qui peut être contraint, et ça je me souviens, on avait posé la question à Gabriel Zucman sur le plateau de Baxit, qui avait répondu, on peut tout à fait payer des impôts en action. Bah ouais. Puisque t'as des actions qui valent de l'argent, bah paye avec tes actions. Nous on accepte, hein, ça nous va. Et l'État fera une plus-value le jour où tu vendras ta boîte. Payé en action, tu donnes des parts. Ouais, c'est ça, tu donnes des parts. Et si le cours chute, dommage pour l'État. Du coup, est-ce qu'on pourrait payer nos impôts en NFT ? Parce que moi, j'ai une collection de NFT, là. On m'a dit qu'elle valait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Hein. Je sais pas, ça se tente. Donc les parts appartiendraient à l'État. Oui, les parts appartiendraient à l'État. Et je ne sais, pas si vous êtes au courant, mais l'État, il est déjà actionnaire d'un nombre incalculable d'entreprises. Hein. L'État, il est au capital de plein de boîtes. Dans certaines boîtes, il est majoritaire au capital, on appelle ça les entreprises publiques. Dans d'autres boîtes, l'État est minoritaire. L'État, il a 20%, 30%, 40% de la boîte. Voilà. Contrairement aux espoirs du gouvernement et du patronat que ce sujet... Non, mais je viens de le lire, ça. Le PS met aussi sur la table une refonte de l'impôt sur le revenu, plus progressif, avec plus de tranches comme d'habitude, après fusion de celui-ci avec la contribution sociale généralisée, oui, ok, la CSG est fusionnée avec l'IR, ça me va, et la contribution au remboursement de la dette sociale, la CRDS aussi serait fusionnée, d'accord. Il veut aussi remettre les revenus financiers dans l'assiette de l'impôt sur le revenu, afin qu'ils soient imposés comme les revenus du travail. De quoi là aussi revenir sur les années Macron ? Ah bah oui. Ça, ce serait une révolution fiscale. Hein. Mettre les revenus financiers dans l'assiette de l'impôt sur le revenu, pour les gens qui gagnent des dividendes, notamment. Ouais. Alors, je crois que c'est déjà le cas, d'ailleurs, pour les dividendes. Je crois que je suis en train de dire une connerie, j'ai un doute. Vos dividendes, vous les déclarez dans votre impôt sur le revenu ? Ou dans votre impôt sur les sociétés ? Comment vous faites, vous ? Moi, je sais plus, moi. Moi, j'ai pas de dividendes, de toute façon, ça règle la question, mais... Tu choisis. Ah, tu choisis. Et puis, de toute façon, t'as la flat tax, ouais. Oui, t'as la flat tax. Ok. Bon, donc ça, c'était pour la partie fiscalité. Le pognon. Alors, les médias. Un seuil anti-concentration et un nouveau délit de trafic d'influence. Ah. Je suis curieux. Le nom de Bolloré n'est pas cité, mais les agissements du milliardaire, notamment l'éviction d'Olivier Nora des éditions Grasset, suivie du départ de 200 auteurs, ont sans nul doute influencé une partie des mesures visant à rétablir l'indépendance des médias. Constatant qu'une concentration capitalistique sans précédent confie l'essentiel de l'information à une poignée de milliardaires, mettant en péril le pluralisme, la liberté éditoriale et le droit des citoyens à une information libre, le PS veut remplacer des plafonds anti-concentration jugés obsolètes, c'était ceux des années 80 là, par un seuil transversal unique mesurant la part d'influence de toute personne physique ou morale, mesurant le cumul d'audience sur tout canal confondu. C'est intéressant comme proposition. En fait, plutôt que de calculer la part d'entreprise que possède le milliardaire, on calcule la part d'audience que réalise le milliardaire avec tous les médias qu'il possède. et on crée un plafond. Ok, non, je réfléchis. Je réfléchis. C'est pas inintéressant. Il propose de revoir le système des aides publiques au secteur, notamment le CNC, je déconne, afin de valoriser les médias indépendants. Une aide unique au pluralisme serait conditionnée au respect de critères de transparence ou de gouvernance. Une aide unique au pluralisme serait conditionnée au respect de critères de transparence ou de gouvernance. D'accord. Donc, il y aurait une aide pour les médias indépendants. Si tu as un seul média maxi-influent, coucou Martin Bouygues, eh ben, tu dilues tes parts. Tu ne peux pas rester le seul propriétaire. Par ailleurs, le droit serait revu avec la création d'un nouveau délit de trafic d'influence en matière de presse pour sanctionner pénalement toute intervention abusive des propriétaires et dirigeants de médias auprès des rédactions qui auraient pour objectif de favoriser leurs intérêts ou ceux d'un tiers. Ah ouais ! Ah ouais ! Ah, il y a carrément un nouveau délit qui est interdit aux milliardaires de foutre son nez dans les décisions éditoriales. Merci Croco. Ok. C'est raide, hein. Qui aurait pour objectif de favoriser leur intérêt ou ceux d'un tiers. D'accord. Les plans macronistes sur l'audiovisuel public seraient mis à la corbeille et une redevance ferait son retour sous la forme d'une contribution universelle et progressive en fonction des revenus. C'est le retour de la redevance audiovisuelle qui a été supprimée par Macron. Rappelez-vous, après la suppression de la taxe d'habitation, Macron a supprimé la redevance audiovisuelle, ce qui avait entaché l'indépendance de l'audiovisuel public, France Télévisions et Radio France. Mais du coup, on n'a pas d'informations sur la volonté du PS ou pas de fusionner France Télé et Radio France. À mon avis, non. Mais bon, ce serait bien de le rappeler. Les règles de l'ARCOM seraient de même revues pour que les experts des plateaux, qui sont en réalité des relais d'opinion, et plus seulement les politiques, soient pris en compte. L'autorité pourrait aussi... Alors ça, oui. Ça, c'est un problème. Quand vous calculez le temps de parole des partis politiques sur les plateaux télé, aujourd'hui, on ne calcule que le temps de parole des représentants des partis politiques. Ça veut dire du chef du parti, des élus, etc. Mais un simple éditorialiste qui s'exprime n'est pas comptabilisé dans le temps de parole d'un parti. Parce qu'officiellement, il n'a rien à voir avec le parti. Sauf que parfois, il dit exactement la même chose que le parti. Et ça a déjà posé des problèmes par le passé sur qui doit-on tenir, dans quel camp doit-on mesurer le temps de parole de bidule ? Est-ce qu'on le met dans le temps de machin ou de truc ? Mettons Philippe de Villiers. Non, mais voilà, Philippe de Villiers qui a une émission toutes les semaines sur CNews. On peut se poser la question, quoi. Hop. L'autorité pourrait aussi résilier unilatéralement la convention permettant à un média d'émettre en France après 3 mises en demeure et 3 ans, en 3 ans, et s'il porte manifestement et gravement atteinte à la vie démocratique de la nation. Voilà, la fermeture de CNews. Le PS propose la fermeture de CNews. Ah bon, pas officiellement. Il propose le mécanisme qui permettra de le faire. La chaîne CNews n'est pas citée, mais elle est sans doute dans le viseur. Oui, je pense qu'on parle de celle-là. J'ai l'impression qu'on parle de celle-là. Je peux me tromper. Peut-être qu'on parle de Gulli. Je sais pas. Voilà. Mais a priori, j'ai l'impression qu'on est plutôt vers CNews. Ok. Bon, le PS, ils sont plus ambitieux que ce que j'imaginais hein, sur la question de l'indépendance des médias, la garantie de l'indépendance et la lutte contre Bolloré et CNews et la concentration des médias. C'est assez ambitieux. Lutte contre la précarité. Le SMIC à 1690 euros, un RSA inconditionnel. Le PS l'avait défendu au sein de la NUPES en 2024. Il reprend la mesure dans son projet. Le SMIC serait augmenté de 11%, passant à 1 690 € net. Pour les travailleurs précaires, il esquisse également une révision du statut de micro-entrepreneur afin de lutter contre le salariat déguisé. Ah, ça m'intéresse. Parce que dans le milieu d'Internet, le statut auto-entrepreneur, c'est le statut le plus répandu. Hein. Alors du coup, ils veulent lutter contre le salariat déguisé. Aujourd'hui, tu as déjà des règles. En principe, il n'y a pas toujours des contrôles, mais en principe, tu n'as pas le droit, quand tu es micro-entrepreneur, de n'avoir qu'un seul client. Sinon, ce n'est pas un client, c'est un patron. Les livreurs également. Ouais, les livreurs, par exemple, les livreurs à vélo, ouais, qui bossent pour une seule application. Pour les 18-25 ans, une tranche d'âge exclue du RSA, un revenu d'autonomie serait créé sans que son montant ne soit précisé. Ah, c'est dommage. Ça aurait été intéressant de savoir combien les étudiants vont toucher de revenus d'autonomie par mois. À l'inverse de la récente réforme du RSA, qui prévoit de nouvelles sanctions envers les allocataires, les auteurs de ce programme posent deux principes. L'inconditionnalité et l'automaticité d'une allocation qu'au moins 30% de ceux qui pourraient y prétendre ne sollicitent pas. C'est ce qu'on appelle le non-recours. Et le PS veut lutter contre le non-recours. J'ai pas bien compris comment. Principe d'automaticité. Ah oui, ça veut dire que ce sera versé quoi qu'il se passe. Oui, d'accord, ok. Cette automaticité concernerait toutes les prestations sociales. La réduction du non-recours devenant une priorité nationale. Je suis bien d'accord. Pour ceux qui ne le savent pas, le non-recours, c'est un phénomène que l'on constate, qui est qu'il y a des millions de Français qui ont droit à une aide et qui ne touchent pas cette aide, à laquelle ils ont pourtant droit. Pourquoi ? Ben, y a plein de raisons. Parce que c'est des gens qui sont éloignés des structures d'aide et d'accompagnement, parce que c'est des gens qui n'ont pas l'information, parce que c'est des gens qui ne savent pas faire les démarches, remplir les papiers, etc. Parce que les assistantes sociales, elles sont déjà sous l'eau de travail et d'accompagnement de personnes bénéficiaires. Voilà, il y a 1 milliard de raisons, mais on appelle ça le non-recours. Et pour le RSA, c'est presque une personne sur trois, 30% pour le RSA, de gens qui pourraient avoir le RSA, mais qui ne l'ont pas, parce qu'ils n'ont pas rempli le bon papier, machin. Alors, une préoccupation qu'un temps, lors de sa campagne de 2022 notamment, Emmanuel Macron avait également partagée. Ah ouais, les bons souvenirs. De nouvelles sanctions verraient le jour, pas pour les plus pauvres, mais pour les administrations, en cas de non-respect des droits ou de retard dans le versement des aides dues. Les administrations, coucou les conseils départementaux, devraient payer des amendes si les gens ont leurs droits pas respectés ou si leurs allocations sont versées en retard. Ouais, je le redis, mais coucou les conseils départementaux. Hein. On parle de vous, là. La création d'un droit universel et opposable à l'accompagnement est aussi au programme. Voulant faire du logement la clé de voûte de la lutte contre la grande pauvreté, le PS compte résoudre les carences du logement d'urgence, notamment en fixant aux communes et aux intercommunalités des objectifs minimums de création de places, comme cela existe pour le logement social. Ah, d'accord, ok. Ah oui, ça va encore plus loin que la loi SRU, quoi. C'est-à-dire que les communes auraient un quota de logements sociaux à créer. Ah non, c'est l'hébergement d'urgence, pardon, excusez-moi. On parle de l'hébergement d'urgence. On ne parle pas de la loi SRU, là. On ne parle pas des logements sociaux. On parle de l'hébergement d'urgence pour les vagues de froid, etc. Ok. Éducation. Alors, l'école. Hausse de la rémunération des enseignants et abrogation de Parcoursup. Alors, ambition affichée de faire de l'école le creuset de l'égalité républicaine. Oh, c'est beau, c'est toujours la même phrase qui veut rien dire. Ça passe par une revalorisation de la rémunération des enseignants. En dépit de l'empilement des plans ces dernières années, l'écart reste creusé par rapport aux autres pays. Les enseignants du second degré, avec 15 ans d'ancienneté, sont payés 16% de moins en France que la moyenne de l'OCDE. Le PS veut rattraper cet écart et instaurer des compléments de rémunération dans les établissements les plus défavorisés. Ça, c'est les fameuses primes pour les enseignants qui travaillent dans les quartiers les plus difficiles. Le PS... Non, ça, je l'ai déjà lu. Les enseignants seraient formés, comme leurs élèves, à partir du collège, aux usages critiques de l'intelligence artificielle générative pour éviter une fracture éducative et faire de l'école un pilier de l'égalité face à l'IA. Oui, mais ça, tout le monde le propose, ça. Ça, tout le monde est d'accord avec ça. Oui. Il faut faire un enseignement critique au numérique dans les écoles. Oui, ça, tout le monde est d'accord avec ça. Il serait également devant des classes moins nombreuses. Selon les calculs du parti, un objectif de 19 élèves maximum par classe, contre 22,4 aujourd'hui, serait atteignable en 10 ans en maintenant les effectifs actuels d'enseignants sans nouvelles dépenses. Ça, vous en avez beaucoup entendu parler sur ma chaîne, l'effet démographique qui fait qu'il y a de moins en moins d'élèves. Si on maintient le même nombre d'enseignants avec un nombre d'élèves qui diminue, on améliore mécaniquement chaque année le taux d'encadrement. En tout cas, comptablement. Après, la difficulté, c'est la répartition sur le territoire des enseignants. Tous les territoires ne sont pas égaux face au taux d'encadrement. D'accord, donc une amélioration du taux d'encadrement. Pour les élèves, le PS reviendrait sur la loi en cours d'examen au Parlement qui vise à interdire le téléphone portable au lycée. Oui, c'est une bonne idée, ça. Il veut favoriser un usage raisonné du téléphone portable dans les établissements scolaires et interdire dans les classes. Oui. C'est-à-dire ce qui existait avant le vote de la loi. Il défend aussi le retour au cœur de la culture scolaire, de l'égalité entre les filles et les garçons, en garantissant une orientation non genrée et en luttant contre les stéréotypes et les VSS. Ça va énerver la droite, ça. Oh, le wokisme! Oh, le wokisme à l'école! Oh, Najat Vallaud-Belkacem! Mais c'est très bien, hein. Ils ont raison. Une mesure pourrait être populaire auprès des lycéens et de leurs parents, l'abrogation de Parcoursup, qui serait remplacée par un processus transparent et démocratique d'accès à l'enseignement supérieur, avec une procédure lisible à toutes les étapes, notamment dans les attendus de chacune des formations. C'est vague. Non mais ok, oui, il faut réformer Parcoursup, bien entendu, mais... Disons que, à ce stade, ces quelques éléments du projet du Parti Socialiste sont assez attendus. Hein. Je veux dire, on ne tombe pas de notre chaise, hein. C'est la doctrine du Parti Socialiste. Certains sont très ambitieux, mais surtout, beaucoup ne sont pas financés. À ce stade-là, le financement de ces mesures est encore évanescent. Bon. Hop. Sur l'écologie, que je connais mieux que le reste, je suis agréablement surpris. Ah ouais, t'es agréablement surpris ? Non, bah ça m'intéresse que tu dis ça, toi, mais parce que je t'avoue que pour comparer, il faudrait que j'ai les éléments de programme des écologistes pour voir un petit peu ce qu'ils proposent, mais bifurcation écologique, nouvelle loi foncière pour aider les agriculteurs dans la transmission des parcelles, interdiction des produits étrangers qui ont des pesticides dedans, création d'un parquet environnemental pour appliquer le droit de l'environnement, nationalisation des autoroutes, même si j'ai toujours pas compris en quoi ça allait réduire les émissions de CO2, mais admettons, alignement de la taxe du kérosène sur les autres carburants, ouais, et création d'un passeport carbone pour les trajets en avion, quoi, en gros, encadrement des prix du TGV et une avance pour les rénovations des passoires thermiques. On est au stade de la déclaration d'intention, donc ça n'engage pas grand-chose, mais c'est pas si mal. Ouais, je suis d'accord avec toi. Non, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. À ce stade-là, on est à un an de l'élection présidentielle. Le PS n'a aucune foutre idée de s'il va avoir un candidat à l'élection, ni de comment il va trancher la question, À ce stade, il ne sait toujours pas. Et on a les esquisses d'un projet présidentiel qui sont en réalité des orientations, des lettres d'intention, déclarations d'intention assez générales sur quelques mesures phares, sur quelques ambitions qui vont avoir besoin au cours de l'année qui vient d'être précisées parce qu'on a besoin d'en savoir plus. Les TOB et TOC s'opposent à la copie présentée. Évidemment, évidemment. C'est ce qu'on aime dans le Parti Socialiste, c'est que dès qu'ils ouvrent la bouche, t'as la moitié du parti qui dit « Oh, je suis pas d'accord. Oh, je suis pas d'accord, non. Certainement pas, non. » Ok. Les TOB et TOC, les TO au Congrès du PS, ça veut dire les textes d'orientation. Ce qu'on appelle les motions. Avant, on appelait ça les motions. Maintenant, on appelle ça les textes d'orientation. C'est la même chose. Et le texte d'orientation B et le texte d'orientation C, ce sont les motions, respectivement, de Nicolas Maillard-Rossignol et de Boris Vallaud, qui, à elles deux, sont majoritaires. Mais je ne suis pas sûr qu'elles soient d'accord sur la marche à suivre. Disons que là, je vais le dire autrement. Tout ce que je viens de vous lire là, c'est la copie d'Olivier Faure. C'est la copie d'Olivier Faure. Et il y a plus de la moitié du PS qui dit « Je suis pas d'accord. » Non. Not in my name. Ce serait bien que ce programme fasse fuir pour de bon les gens de droite du PS. Ah, bah ça. Moi, j'ai envie de dire, y a un parti qui les attend qui s'appelle Place Publique. Hein. Faut pas hésiter à aller à Place Publique. C'est bien, Place Publique. En plus, il y a Raphaël Glucksmann, qui est déjà candidat. Faut pas hésiter à aller le soutenir. Hein. La social-démocratie, c'est là-bas. L'avenir de la social-démocratie, c'est Raphaël Glucksmann. Et pourquoi pas ? Après tout, n'est-il pas le meilleur ? Alors, vous allez me répondre, il y a François Hollande. Ah, c'est vrai ! Ah, c'est vrai ! Je ne sais pas. Je ne sais pas quel est l'avenir de la social-démocratie. Le fait qu'il a décrété des purges peut en refroidir plus d'un. C'est vrai que les purges, c'est pas dans la culture du PS. Hein. Le PS a la culture inverse de la purge. C'est que les gens restent dans le parti et ils gueulent, ils font chier, ils cassent les couilles. Et... Bah ouais, mais c'est le parti, c'est comme ça. C'est... Ils finissent par partir après 10 ans à emmerder tout le monde, mais... La culture inverse de la purge, c'est le parti de la constipation. Putain, t'es con. Oh. Non, je sais pas. Écoutez, qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur ces quelques éléments du projet du Parti Socialiste qui a été désigné aujourd'hui ? Encore une fois, je retiens que ce sont des déclarations d'intention intéressantes qui marquent clairement une rupture avec la social-démocratie de François Hollande. C'est-à-dire, dit autrement, c'est assez ambitieux et c'est vraiment un coup de barre à gauche. Ceci étant, nonobstant néanmoins, c'est pas très financé à ce stade. Il y a des propositions qui sont encore floues. Et quoi qu'il en soit, le PS n'a pas la moindre idée de comment ils vont désigner un candidat à la présidentielle. Donc, et de toutes les manières, le dit candidat, quel qu'il soit, fera son marché dans ses propositions. Voilà. Il y a des trucs qu'il retiendra, des trucs qu'il laissera à la poubelle... Comme tous les candidats, c'est normal. C'est le candidat à la fin qui incarne son propre projet. Et c'est lui qui prend des engagements dans les meetings, sur les plateaux télé, etc. Je viens de voir que mon maire vient de s'octroyer une augmentation de 173% d'indemnité. Qu'est-ce que tu en penses? Tu vis à Roubaix? Non, alors attention avec ça. Ouais, alors attention avec ça, parce que j'ai vu pas mal de gens sur Twitter, d'articles de journaux, etc., dire « Ouh là là, lors de son premier conseil municipal, le nouveau maire a décidé de s'augmenter. » La réalité, c'est que lors d'un conseil municipal d'installation, c'est littéralement le nom qu'on donne à un premier conseil municipal, le maire, enfin le conseil municipal plutôt, doit voter sur la rémunération de tous les conseils municipaux, les adjoints et le maire lui-même. Et qu'il y a beaucoup de maires dans les équipes précédentes qui n'avaient pas augmenté leurs indemnités jusqu'au plafond légal pendant plusieurs années. Donc, quand un nouveau maire arrive, il remet au niveau de la loi l'indemnité, au niveau du plafond légal, l'indemnité qu'il peut toucher. Ce qui fait, parfois, des augmentations. Oui, évidemment, tu as une augmentation de l'indemnité du maire parce qu'on a juste fait un rattrapage, on est revenu au niveau de la loi. Il n'est pas obligé de le faire. Il n'est pas obligé de le faire. Il n'est pas obligé de le faire. Je ne savais même pas qu'il pouvait s'augmenter. Je pensais que c'était fixé par la loi. Non, c'est, enfin, ce qui est fixé par la loi, de mémoire, hein, ce qui est fixé par la loi, c'est un plafond. Mais le conseil municipal détermine le montant de l'indemnité. Quand c'est x5 du rattrapage. Oui, ça peut être x5. Non, mais encore une fois, je nous invite juste à faire gaffe à la démagogie qui consiste à dire « Oh là là, les élus, ils s'en mettent plein la poche, etc. » Si ça se trouve, je ne connais pas le sujet là en l'espèce, mais si ça se trouve, l'ancien maire, il avait plein de fric, il n'avait pas besoin d'avoir une grosse indemnité de maire. Grosso modo, il faisait ça sur son temps libre. Tu vois ce que je veux dire ? Sauf que le nouveau maire, lui, il est à plein temps maire. Donc il ne va pas rester avec l'argent de poche que se versait son prédécesseur. Il va remettre son indemnité au niveau de la loi. Il faut aussi connaître le contexte. Dans certaines villes, l'ancien maire était un retraité, donc il a une indemnité en plus de sa retraite, donc il avait choisi d'avoir une indemnité très faible. Oui, t'as raison. Oui, ça peut être une explication aussi. Enfin, ça rentre dans ce que je disais sur le prédécesseur, il avait pas besoin d'une grosse indemnité. Ça peut être pour ce genre de calcul. Soit il a du patrimoine, soit il a de l'argent de côté, soit il a une pension de retraite ou des dividendes, j'en sais rien, je sais pas ce qu'il faisait l'ancien maire, mais voilà. Ou alors il avait plusieurs mandats, ouais. Donc, méfiez-vous quand vous entendez des opposants locaux tweeter des trucs du genre « OMG, le maire vient de voter une augmentation de tant de pourcents de son indemnité, n'est-ce pas scandaleux ?» À l'aide, vive la démocratie. Si j'avais été élu, j'aurais pas fait ça. Si t'avais été élu, t'aurais probablement fait à peu près la même chose. Soyons honnêtes. Hop. Pas cité de gauche. Ah, parce que la gauche, c'est le vœu de pauvreté. Enfin, une question de point de vue après, mais moi je crois qu'il y a quand même pas mal de gens à gauche qui se battent pour la juste rémunération des représentants du peuple. Peut-être pas pour l'enrichissement, faut pas déconner, mais une rémunération qui représente le niveau d'investissement et de compétences qu'ils mettent dans leur mandat. C'est pas les franciscains, ça. Oui, voilà, c'est ça. C'est les franciscains qui font vote pauvreté. Hmm. Merci à MobDX. Moi, je veux un élu facilement achetable. Arrêtez de les payer suffisamment, sinon ça complique. Oui, oui, le taux de corruption aussi, facilité par les indemnités trop faibles. Moi, j'ai bugué sur le nouveau maire RN de Vierzon qui, dès son élection, a crié aux factures cachées par ses prédécesseurs, aux comptes faux, etc. Je ne sais pas si c'est de la com ou de la malhonnêteté, si c'est vrai ou s'il ne sait pas lire les comptes. J'en sais rien, je connais pas du tout Vierzon. J'ai pas du tout l'info. Merci, Gimsic. Tout travail mérite salaire décent. Ce qui se fait payer est le diable, la dissonance cognitive à gauche. Bon après, c'est pas nouveau, je veux dire, les problèmes entre la gauche et l'argent, le rapport à l'argent, c'est des débats qui sont assez anciens, hein, faut le reconnaître. Rappelez-vous, François Ruffin, quand il a été élu maire, quand il a été élu député, le premier truc qu'il a fait, c'est de réduire son indemnité de député au niveau du SMIC. Parce que lui estime que c'est la meilleure manière d'être représentatif de son électorat. Et que ça joue pour beaucoup. Donc c'est des débats assez anciens à gauche. Hein. C'est une pratique majoritaire chez les communistes. Donc pas tout à fait pour les mêmes raisons. C'est surtout que les communistes, ils ont des engagements de payer des contributions au parti pris sur leur indemnité d'élu. Disons que c'est par solidarité, quoi. Il s'est fait défoncer par ses propres camarades LFI parce que lui, avec son pactole de réalisateur, il avait les moyens de le faire. Oui, d'ailleurs, il s'en est jamais caché, François Ruffin. Je crois qu'il l'avait dit sur le plateau de Baxi, d'ailleurs. Il avait rappelé qu'il avait aussi des revenus d'auteur de son métier de réalisateur, quoi. C'est que dalle, le salaire des maires, c'est brut. Ah, on peut pas dire que les élus sont très bien payés. Hein. Non. On peut pas dire que les élus sont très bien payés. En Belgique, le PTB plafonne à 2500 euros net. Tout le reste est reversé au parti. Après 10% de défection dans leurs élus. Ah, ils sont pas tous restés au parti. Je comprends. La vidéo de Ruffin en dialogue avec l'IA Claude est assez catastrophique. Ah, j'ai pas regardé. Est-ce qu'on demande à ChatGPT si les élus sont bien payés en France ? Il est où mon ChatGPT ? Putain, je sais même pas où est l'appli tellement je l'utilise jamais. Alors. Est-ce que les élus sont bien payés en France ?
Alors, ça dépend des niveaux de responsabilité. En France, les maires, députés, sénateurs ou autres élus ont des rémunérations qui sont souvent proportionnelles à leurs fonctions. Les plus hauts postes, comme les ministres ou les présidents du Sénat, sont bien payés, avec des salaires assez élevés, alors que des maires de petites communes peuvent avoir des indemnités plus modestes. Donc oui, globalement, certains élus sont correctement payés, mais il y a une grande diversité selon les rôles.
Elle a chié sa réponse.
Ouais, bah oui, bah il y en a qui sont bien payés, puis d'autres qui le sont moins. T'as d'autres questions, connard? D'accord, merci, merci ChatGPT. J'ai progressé dans ma connaissance. La réponse est proportionnelle à la question. Oui, non, ma question n'était pas précise, mais je sais pas, moi je voulais que ChatGPT m'emmène sur une réflexion sur la démocratie, sur le niveau de représentativité. Faut-il être représentatif jusque dans son montant de revenus? Est-ce que c'est ça qui compte en démocratie? Est-ce que c'est ça qui fait le lien entre l'élu et son électeur? Moi, j'ai un étudiant qui me répond ça, je lui mets une mauvaise note. Hein. Moi, je demande plus de réflexion que ça. T'en demandes trop. Bah, j'en demande trop. J'en demande le niveau d'exigence de mon chat. Vous, voilà, vous êtes là parce que vous voulez du... Voilà, un truc quand même qui a de la gueule. Bah, j'attends que ChatGPT soit à ce niveau-là, qu'il réponde à la satisfaction du chat. Mais comme ChatGPT n'a pas besoin de générer l'envie de sub, ChatGPT peut se permettre de faire des réponses médiocres. Pour revoir son prompt. Non, mais c'est toujours de ma faute. Alors, c'est toujours... Ah, voilà, bah, alors, l'IA, elle fait tout bien. C'est l'utilisateur qui est mauvais parce que son prompt, il n'était pas bon. Voilà, c'est toujours pareil. C'est toujours de notre faute. C'est, voilà. Demande comment résoudre la dette de la France. Comment financer le programme du Parti Socialiste? Demande comment prendre le pouvoir. Non. Il n'y a rien ou presque sur le financement et aucun chiffrage dans le programme du PS. C'est une lacune grave. Il va falloir sérieusement bosser derrière. Oui, encore une fois, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Ce qu'on a lu là, ce n'est pas le programme du PS. C'est quelques mesures prises par Libération d'un projet qui doit encore faire l'objet d'un gros travail, déjà de discussion et de débat en interne au PS, de ce que j'ai compris, dans les fédérations, auprès des militants, puis ensuite de chiffrage au fur et à mesure que le programme va être précisé. En gros, ce que dit Chloé Ridel, de ce que je comprends, ce qu'elle dit, c'est que c'est encore un peu tôt pour faire un chiffrage, parce que ça va dépendre de beaucoup de choses qui vont évoluer dans ce projet. Là, on est à un an de la présidentielle, on n'est pas du tout au stade du chiffrage. Le chiffrage, ça viendra plus tard. Et ce que je dis est valable pour les autres partis, c'est pas spécifiquement pour le PS. Les autres partis aussi sont en train de travailler sur leur projet, sur leur programme, sur leur chiffrage, et ça va arriver avec le temps. LFI est en train de bosser de son côté sur son projet, ils n'en ont pas encore un. Ça va arriver. D'autant que l'année qui vient là, à partir de maintenant jusqu'à la présidentielle, il va peut-être se passer des dingueries dans cette année. Genre un choc pétrolier. Genre une guerre. Genre, enfin voilà, je veux dire... Il y a peut-être beaucoup d'ambitions politiques qui vont être rabotées assez naturellement par un contexte politique et budgétaire qui va rendre particulièrement difficile de faire preuve d'audace. Genre une récession massive, un litre d'essence à 5 euros. Ouais, voilà, c'est ça, ce genre de truc-là, quoi. Donc, et ça, je me permettrai de vous le rappeler pendant toute la présidentielle, les candidats qui vous promettent monts et merveilles, je vous invite à les prendre avec légèreté. Oui, on verra bien. Surtout les trucs qui coûtent cher. Ça va être le festival des programmes réalistes. Ouais, bah oui, bah il va bien falloir. Hein. Genre le budget de la défense en trucs qui coûtent cher. Ouais, par exemple, est-ce que c'est une bonne question, par exemple. Emmanuel Macron a décidé de multiplier par deux la part du PIB consacrée à la défense. Bon. Question. Est-ce que les candidats veulent remettre ça en cause ? C'est une vraie question à poser à un candidat à l'élection présidentielle. Est-ce que vous allez réduire le budget des armées ? Est-ce que vous allez annuler la construction d'un nouveau porte-avions militaire, d'un nouveau porte-avions nucléaire ? Voilà. C'est des questions concrètes. Et la réponse à ces questions peut avoir un impact sur le oui, ce qu'on appelle le réalisme du budget, quoi. Le réalisme du programme. Perso, ça peut changer un vote. Ah ouais, ce genre de position des candidats sur les questions de défense. C'est quoi un budget réaliste? C'est un budget qui est financé, du tout. C'est possible de financer un budget. Faut dire où on prend l'argent, combien ça rapportera. Et il faut que le chiffrage soit honnête, réaliste, pas au doigt mouillé. Et vers quoi est-ce qu'on et qu'est-ce qu'on va dépenser, à quel endroit ? C'est ce qu'on disait tout à l'heure sur le programme du PS, là je sais plus à quel endroit, où il disait que il comptait sur, en gros, sur la croissance, quoi. Oui, bon, oui, d'accord. Ça, c'est la douille classique. Quand je serai président, le taux de croissance sera à plus de 5%. Oui, bien sûr, bien sûr. Là, forcément, ça va faire des rentrées fiscales. Du coup, on aura plus d'argent. Du coup, on va pouvoir financer mes mesures et tout. Oui, 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 oui. D'ailleurs, c'est ce qu'avait dit, je repense au stream d'hier, mais c'est un peu ce qu'avait dit Sébastien Lecornu quand il a taclé le Rassemblement National en disant le RN qui aujourd'hui fait campagne pour la baisse des taxes sur le carburant, qui il y a même pas trois mois était déjà en train de nous voter des taxes supplémentaires. Du coup, vous foutez pas un peu la gueule du monde ? Quand il s'agit de boucler un budget, vous avez des idées de taxes, mais une fois que le budget il est bouclé, vous venez faire campagne en disant faut baisser les taxes, les gars. Les gars, bah alors ? On commence à cogner sur les programmes financés par la croissance débile. On parle de l'avenir en commun ou pas encore ? L'avenir en commun, ils sont financés sur la croissance ? Je suis pas sûr. Hein. Alors, c'est pas des récessionnistes à ma connaissance. Mais l'avenir en commun, ils sont financés sur la taxation des hauts revenus. des dividendes, des super profits, des dividendes des entreprises, etc. Ce qui n'est pas un puits infini non plus. Est-ce qu'il y a d'autres types d'effets? Mais non, je sais pas, ils sont hyper croissantistes dans l'avenir en commun. Je ne me souviens plus. C'est une relance keynésienne. Ah, c'est une relance keynésienne dans l'avenir en commun. Ah oui, c'est augmentation du pouvoir d'achat. Augmentation des salaires, augmentation des minima, augmentation de la consommation, donc augmentation des carnets de commandes des entreprises, donc croissance pour tous et tout le monde est content. Ouais. Merci Montmaker. Personne prône sérieusement autre chose que la croissance. Vraiment, il n'y a qu'une petite part de quelques-uns à gauche pour cracher sur la croissance. Oui, je vois ce que tu veux dire. On a une classe politique qui est massivement portée autour de l'idée de croissance comme moteur de... Soit de l'émancipation individuelle, soit de l'émancipation collective. Ça reste assez ancré. Après, t'en as qui sont plus austéritaires que d'autres. Je me souviens du programme de François Fillon, c'était pas jojo. Hein. François Fillon, en 2017, il a fait campagne sur des suppressions de postes absolument parfaites. Enfin, un amaigrissement global de l'État. Un giga amaigrissement de l'État. Moins de prestations sociales, moins de retraites. Moins de fonctionnaires, moins de profs, moins de médecins, moins de... voilà. C'était... Oui, mais la dette. Ah, la dette. D'ailleurs, je vous rappelle que demain, dans Backseat, nous recevons Erwan Balanant. Erwan Balanant sera notre invité demain sur le plateau de Backseat. Erwan Balanant est un député du MoDem. Le MoDem de François Bayrou, et je suis très content qu'il vienne pour plein de raisons, notamment parce qu'il est l'un des représentants de la commission d'enquête sur l'audiovisuel public. Il est membre de la commission d'enquête sur l'audiovisuel public. Il est très critique de Charles Aloncle et de son travail de rapporteur. Erwan Balanant, qui a aussi fait des propositions par le passé sur les institutions, Erwan Balanant a proposé la proportionnelle, il a proposé la fin de l'élection du président de la République au suffrage universel direct. Pas mal de choses intéressantes, à mon avis, pas mal de sujets qu'on va aborder avec lui. Ça existe encore, le MoDem ? Bien sûr. Le MoDem est l'un des groupes qui compose la Macronie à l'Assemblée nationale. Balanant, il n'avait pas aussi animé une commission avec Sandrine Rousseau. Si, il avait été président ou rapporteur, je ne sais plus, d'une commission d'enquête sur les violences sexuelles et sexistes dans le monde de la culture, notamment dans le cinéma. Quand il était venu pour la première fois à Backseat, vous aviez commencé à aborder la proportionnelle, mais malheureusement, la conversation avait été sabotée par le débat LFI extrême ou pas. Ce serait cool d'y revenir. Oui, c'est vrai qu'on avait déjà abordé le sujet quand il était venu sur Backseat la première fois, Erwan Balanant. C'est cool qu'il revienne. Quand j'entends les politiciens parler de la dette, de dépenses de l'État, etc., j'ai envie de leur donner un cours de politique économique et de finances publiques. Ben fais-le. Si tu veux que je te dise, n'hésite pas à leur envoyer un mail, hein, si tu te crois plus malin qu'eux et que tu veux leur apprendre la vie, ils seront ravis d'avoir tes cours. Je sais pas, je... Mmh. Il n'y a aucune marge de mouvement tant que notre budget est plombé, atomisé par 600 milliards de retraites. Ça, c'est pas le budget de l'État, en l'occurrence. Mais oui, dans les dépenses publiques, oui. Oui, les retraites représentent le plus gros poste de dépenses. Ça, c'est vrai. C'est mon domaine d'études, je sais qu'ils le font exprès. Non, mais je suis sérieux hein, quand je te dis, vas-y, va leur parler. Hein. Les députés, ils sont contents de recevoir des mails de gens qui leur envoient une note pour leur expliquer des trucs. Hein. Faut pas hésiter à aller parler avec ces élus. Hein. N'hésitez pas. N'hésitez pas à rentrer dans un parti politique aussi pour faire partie de la force militante. Qui réfléchit, qui propose, qui suggère, qui analyse, etc. Les gens veulent pas s'engager car on les écoute pas en général. Alors dans un parti, qu'est-ce que ça change? Ben je sais pas, faites ce que vous voulez. Merci Luta d'ici. Merci Atlonto. Mais c'est-à-dire que si vous parlez pas, c'est sûr qu'on va pas vous écouter. Tu vois, je sais pas comment dire. Si tu veux pas t'engager parce que tu as peur de pas être écouté, c'est sûr que tu vas pas l'être. Faut se battre un peu. Enfin, je sais pas, militer dans un parti, c'est aussi se battre. Hein. Y compris en interne, pour être entendu, écouté, prendre la parole, plancher collectivement dans un travail collectif, etc. Tu pourras demander à Balanan l'avenir de François Bayrou. J'aimerais bien rentrer au Modem une fois qu'il sera parti. ouais, j'ai prévu de lui poser une question sur l'avenir du Modem et l'avenir de François Bayrou. J'ai plusieurs questions à lui poser sur l'avenir de la Macronie en général. Quel bilan est-ce que lui, il tire de ses 10 ans au pouvoir? Comment est-ce qu'il voit les choses actuellement? Parce que vous avez vu quand même que le Modem et les Renaissances en ce moment, ça va pas du tout. Ils se mettent sur la tronche assez vénère. Ouais, je suis curieux de l'avenir du Modem, de l'avenir de la démocratie chrétienne, comme d'habitude. Qu'est-ce qu'ils vont devenir, où est-ce qu'ils vont, etc. Pourquoi Modem et Renaissance se tapent dessus? Bah parce que le Modem a annoncé sa volonté de voter contre la loi Yadan. Parce que le Modem a dit qu'ils étaient contre, ou alors ils ont voté contre la loi sur le 1er mai, le travail du 1er mai. Donc, là, ces dernières semaines, de toute façon, les équilibres au sein de la Macronie sont quand même très compliqués. Sébastien Lecornu marche sur des œufs, ou marche sur un fil plutôt. Mai et Yadan, sacré grand écart. Bah oui. Oui, c'est ce que j'explique. C'est qu'ils sont pas d'accord. Renaissance propose des trucs, le Modem répond non. Ça sent... Moi, j'ai l'impression que ça y a un côté fin de règne, quoi. Personne n'a d'intérêt à ce que le gouvernement tombe en ce moment. Oui. Et paradoxalement, ça affaiblit le gouvernement. Pourquoi ? Parce que le gouvernement ne tient pas sa majorité. Sa majorité n'a pas, d'ailleurs c'est même pas une majorité, hein, c'est un micro-socle commun, qui n'a même pas besoin d'être uni, parce que de toute façon on est en fin de règne, de toute façon on va se régler à la présidentielle, et personne n'a envie d'être l'héritier du bilan du macronisme, surtout de la fin du macronisme. Est-ce que le MoDem va avoir un candidat même si Bayrou ne va pas y aller ? Ça aussi, c'est une question. Oui, c'est une bonne question. C'est une bonne question que j'ai envie de poser à Balanan. Est-ce que le MoDem va soutenir quelqu'un à la présidentielle ? Alors, la réponse est évidemment oui, parce que le MoDem a vocation à soutenir quelqu'un. Mais soutenir qui ? Est-ce que le MoDem va soutenir le très droitier Édouard Philippe ? Pas trop le genre du MoDem. Est-ce que le MoDem va soutenir Gabriel Attal ? Vu l'ambiance en ce moment, j'en doute. Est-ce que le MoDem pourrait soutenir un Dominique de Villepin ? Et pourquoi pas ? Et pourquoi pas ? Alors après, Dominique de Villepin, c'est pas la démocratie chrétienne, hein, c'est le gaullisme. Pas tout à fait la même école de pensée, mais bon. Ou un Glucksmann, ouais, un Glucksmann. Personne ne veut être un héritier et pourtant Macron n'était-il pas l'héritier du bilan de Hollande ? Non ! Ah non ! Macron était un critique du bilan de Hollande. Non ! Comme Sarkozy avec le bilan de Chirac, hein ? Le renouveau ! Le renouveau ! Sans moi, jamais ! C'est d'ailleurs un des trucs qui a blessé François Hollande. Blessé. Grand mot, mais vous voyez ce que je veux dire politiquement, c'est que personne n'a défendu le bilan de François Hollande en 2017. Personne. Le candidat investi par le Parti Socialiste, c'était un frondeur, Benoît Hamon, qui n'a évidemment pas assumé le bilan de Hollande. Et l'autre candidat qui avait été au gouvernement, c'était Emmanuel Macron, qui n'était pas du tout héritier du bilan de Hollande, sans moi, certainement pas, droit d'inventaire, etc. Et c'est pour ça que Hollande veut se lancer à la présidentielle là en 2027, c'est que Hollande est persuadé, je ne sais pas s'il a raison ou s'il a tort, mais Hollande est persuadé qu'il peut être en mesure de réunir un électorat issu pour une partie de la gauche et issu pour une partie du macronisme, ce même électorat qui s'est scindé en deux au moment de l'élection présidentielle de 2017. Une partie se dirigeant vers Benoît Hamon et surtout Jean-Luc Mélenchon, et une autre partie se dirigeant vers Emmanuel Macron. La conviction de François Hollande, parce que ça a été l'œuvre de sa vie politique, c'est qu'il est en mesure de faire la synthèse. La fameuse synthèse hollandienne entre une partie du macronisme et une partie de la gauche. Au sein d'un grand mouvement social-démocrate, etc. Voilà, c'est sa conviction. Ça aurait pu être bien de faire la synthèse avec les syndicats pendant son mandat. Bah, il l'a fait sur la loi Sapin quand même. Premier grand accord interprofessionnel qui a été signé CGT, CFDT, MEDEF, c'était sous son quinquennat à lui. Bon, la suite du quinquennat s'est moins bien passée, notamment avec la CGT, sur la loi travail, et même avec le MEDEF, même avec la CFDT d'ailleurs. Hollande, il poussait pas pour Cazeneuve à un moment ? Non. Non, il n'y a que Cazeneuve qui pousse pour Cazeneuve. Cazeneuve, il fait son truc depuis 10 ans. Il a créé la convention. Il a fait des débats et des discussions avec Édouard Philippe. Cazeneuve, c'est pour... Laurent Berger, il n'avait pas envisagé de se présenter un temps. Non, Laurent Berger, il aurait été approché par Emmanuel Macron pour rentrer à Matignon. Et il aurait décliné, estimant que ce n'était pas son job. C'est pas facile de gouverner quand même. On va bien rigoler quand JLM devra prendre des décisions qui ne sont pas tout le programme rien que le programme. Je sais pas si on va bien rigoler, mais comme l'a très bien dit Bali Bagayoko sur le plateau de Backseat, vous savez, le programme, bon, il y a le programme et il y a la réalité. Faut s'adapter. Oui. T'as vu que la date des sénatoriales a été annoncée ? Ah non, j'ai pas vu, mais c'est en septembre de toute façon. On a le temps d'ici là. Un élu LFI qui s'éloigne du programme, le chat a dû faire quelques crises d'apoplexie. Non. Non, le chat n'a pas relevé. Moi, j'ai un peu écarquillé les yeux sur le moment. On se souvient, j'étais en face de Bali Bagayoko, en train de m'expliquer que le programme, on verra. J'étais en mode, ah ouais. Ok. Est-ce qu'il faut garder la même carte de vote ou on en a une nouvelle ? Normalement, tu gardes la même, hein, sauf si tu en reçois une nouvelle. Bon, en gros, c'est ça. Si tu n'en reçois pas, bah, tu gardes celle-là. Et si tu en reçois une nouvelle... Alors, vérifie d'ailleurs, parce que si tu reçois une nouvelle carte d'électeur, c'est peut-être parce que tu as changé de bureau de vote. C'est peut-être ça. Ça vaut le coup de vérifier quand même. Il n'y en a pas besoin de carte de vote, ça dégage. Alors, la carte électorale, ça sert à être sympa avec les gens qui tiennent les bureaux de vote. Ça leur facilite le travail. En fait, ça sert à pas être un connard. Après, c'est vous qui voyez, vous faites ce que vous voulez. Pas obligatoire. C'est juste sympa de le faire. Maintenant, c'est vous qui décidez. Pourquoi est-ce qu'on ne mélange pas le vote citoyen et les grands électeurs pour le Sénat ? En vrai, ça pourrait être une bonne idée. Hein. En vrai, ça pourrait être une bonne idée. On pourrait imaginer des élections sénatoriales qui seraient des élections pondéré avec 50% des voix qui viendraient du suffrage universel direct et 50% des voix qui viendraient des grands électeurs. Il y aurait une surreprésentation des voix des élus locaux, mais il y aurait quand même la participation populaire du suffrage universel direct. Non, en vrai, c'est impossible parce que tu peux pas mélanger les légitimités et... Ouais, non, ça a pas de sens. Tu peux pas faire un demi-suffrage universel direct. C'est pas possible. C'est... Soit le peuple est souverain, soit il l'est pas, mais tu mélanges... Tu peux pas diluer... Non, c'est pas possible. En plus, t'imagines si un élu local vote différemment que la majorité de la population de sa collectivité ? Politiquement, qu'est-ce que ça veut dire ? Le maire a été dédié par les habitants de sa ville ? Pas possible. Démocratiquement, c'est pas pensable. Non, ouais, non, je suis désolé. L'espace d'un instant, j'ai essayé d'éventualiser l'idée que c'était possiblement une bonne idée. Mais non. Hmm. Ce serait intéressant d'avoir une assemblée qui serait tirée au sort. Oui, ça s'appelle les conventions citoyennes. Et c'est très intéressant, effectivement. C'est très utile et ça produit un travail de qualité. Ce n'est pas un travail législatif, mais qui donne des indications intéressantes sur le niveau d'acceptabilité sociale de certaines mesures. Les travaux que le Parlement ignore, mais parce que le Parlement est élu et non pas tiré au sort précisément. C'est le Parlement qui a le dernier mot, c'est le Parlement qui fait la loi. La loi, c'est l'acte du Parlement. C'est pas l'acte du tirage au sort. C'est pas le fruit du hasard. Quels seraient les scénarios pour que la gauche ait une chance d'aller au second tour ? Qu'elle ait un candidat commun ? T'as d'autres questions ? Voilà. Le meilleur scénario pour que la gauche arrive au second tour, c'est qu'elle soit unie. C'est bien ici qu'il faut sub ? Oui, c'est ici, c'est sur cette chaîne-là qu'il faut sub. Donc la gauche n'arrivera jamais au second tour. La gauche, alors pour reprendre une explication de Jean-Luc Mélenchon avec laquelle je suis d'accord, la gauche n'a pas toujours eu besoin d'être unie pour être au second tour. Hein. En réalité, même la gauche, à chaque fois qu'elle a gagné, elle n'était pas unie au premier tour. 1981, la gauche n'a été pas unie. 88 non plus. 2012 non plus. Mais une fois que j'ai dit ça, attention, parce qu'on pourrait croire que bon, bah c'est bon, alors du coup, c'est pas un problème que la gauche soit désunie. Oui, mais... faudrait qu'on parle de 95, faudrait qu'on parle de 2002, faudrait qu'on parle de 2007, faudrait qu'on parle... de 2017 et de 2022. Ça fait beaucoup quand même. Ça fait beaucoup là, non ? Après, est-ce qu'elle a déjà été unie au premier tour ? Non, la gauche n'a jamais été unie entièrement au premier tour, mais c'est pas très grave parce que, encore une fois, il faut rentrer un peu plus dans le détail. La gauche, elle n'a pas toujours été unie, mais elle a quand même été, comment dire, dominée par un parti hégémonique qui s'appelle Ario, le Parti Socialiste, jusqu'en 2012 en tout cas. C'est-à-dire que la gauche, elle avait un candidat puissant et fort et d'autres candidats, mais qui étaient trop faibles pour représenter un danger. Et surtout, un danger de qualification au second tour. Parce que là, je vous rappelle que l'enjeu de la gauche, avant de gagner la présidentielle, c'est surtout de se qualifier au second tour. C'est au second tour que la gauche bute depuis 10 ans. Donc voilà quoi. c'est quand même vachement plus drôle d'être sorti du bipartisme. Je te l'accorde. Disons qu'on s'amuse un peu plus. On s'amuse. Ça fait pas marrer tout le monde, mais on a des choses à commenter. Est-ce que 10 ans ont suffi à éliminer le traumatisme du mandat de Hollande ? C'est une bonne question. Je pense que le PS parie sur le fait que oh, ça va, les gens, ils ont oublié. Ou à défaut d'avoir oublié, les gens, ils en ont soupé de Macron suffisamment pour se dire qu'après tout, on relativise en se disant le PS, c'est pas si pire. C'est terrible hein, de se dire que tu prépares une présidentielle en te disant que les gens sont résignés. J'ai pas vraiment connu le trauma Hollande. Le trauma Hollande, il a surtout été important pour une génération de jeunes qui se sont politisés pendant le quinquennat Hollande contre Hollande. Voilà. Bah, c'était les cortèges de manifestants qu'on avait contre la loi travail, par exemple. C'est surtout eux. C'est eux qui font des blagues sur Manuel Valls. C'est eux. Ils ont un trauma personnel. Ça a été leur naissance en politique, je veux dire. De la même manière que moi, ma naissance en politique, ça a été Dominique de Villepin. Ah bah voilà. Mon trauma, il vient de là. Génération CPE. Génération CPE. Je suis de la génération CPE. Donc pour 2027, le scénario le plus probable d'une gauche au second tour sera le vote utile. Le vote utile est toujours utile pour se qualifier au second tour, c'est même à ça qu'il sert. Soit c'est un vote utile massif. Le problème de la gauche, pardon, hein, je vais quand même rappeler une vérité, c'est que la gauche, elle a un problème, c'est qu'elle est faible. Elle est faible. Il y a très peu de gens de gauche en France. La majeure partie des Français ne sont pas de gauche. Ce qui reste de gens qui s'autodéfinissent comme appartenant à la gauche est assez faible, c'est à peu près un électeur sur 3. C'est ça aussi le problème qu'a la gauche. Si elle était plus puissante, s'il y avait des millions de gens qui se définissaient de gauche et qui avaient une aspiration à la gauche, etc., peut-être qu'on regarderait les choses différemment. Mais là, faute de mouvement massif, la gauche se cherche un trou de souris dans lequel elle pourrait se faufiler au second tour et éventuellement, soyons fous, gagner. Le problème de la gauche, c'est que c'est un parti minoritaire. Ouais, ouais, c'est ça. Le problème de la gauche, c'est le PS. Voilà, donc ça aussi, c'est l'un des problèmes de la gauche, c'est sa division. Je ne sais pas si vous avez remarqué, Voilà, mais vu de l'extérieur, la gauche, c'est des gens qui se tapent dessus tout le temps, entre eux. Entre eux, hein, à défaut de taper sur les autres. ça fait pas bander. Hein. Vraiment, ça donne pas envie. La gauche, elle fait soupirer les gens. La gauche... Donc, mais ça et ça pour le coup, franchement, c'est pas nouveau. La division de la gauche, elle est inscrite au patrimoine mondial immatériel de l'UNESCO. Hmm. La droite commence à se diviser aussi, mais elle est moins ridicule. Je sais pas ce que toi, tu appelles la droite. Pour l'instant, la droite, elle est quand même dominée par l'extrême droite. Et quand je parle de domination, on parle d'une domination à plus de 30% des voix, si je puis me permettre de vous rappeler. Donc, c'est une giga-hégémonie du Rassemblement National à ce stade. Et du côté du centre-droit, Emmanuel Macron... Alors, la difficulté pour Emmanuel Macron, c'est qu'il est en fin de course et qu'il ne peut pas se représenter. Donc, on sait qu'on n'aura pas Macron en candidat. Mais jusqu'à présent, Macron a assez bien résisté. Et il a attiré à lui toute une partie de la droite. Bon. Donc, tu as effectivement une atomisation du paysage à droite avec des ambitions qui sont nombreuses. Entre le centre et la droite, c'est vrai qu'entre Gabriel Attal, Édouard Philippe, Bruno Retailleau, qui est candidat investi, Laurent Wauquiez, on ne sait toujours pas, comment il s'appelle, Dominique de Villepin, Xavier Bertrand, on ne sait jamais, Gérald Darmanin, on ne sait toujours pas, David Lisnard, on en est à 8. Hein. On est à 8, disons, prétendants. Est-ce que vous vous souvenez de la primaire de 2022 chez les Républicains? Merci Frimir, merci. Est-ce que vous vous souvenez de la primaire de 2022 des Républicains? Il y avait combien de candidats? Ils étaient 5, 6 à tout péter? Un truc comme ça, ouais, dans ces eaux-là, 5, ouais. Alors, c'est-à-dire que non seulement ils étaient moins nombreux, mais en plus, ils avaient un processus. Ils avaient un processus de départage, qui était la primaire, et qui a donné Valérie Pécresse. Je comprends pas pourquoi, là, tu dis que 30% des voix, c'est une ultra-domination, alors que tout à l'heure, tu disais qu'un électeur sur trois, c'était minoritaire. Il y a un problème de maths. Ah non, c'est que t'as pas compris. Plus de 30% des voix pour un seul parti politique, le Rassemblement National, alors que la gauche, collectivement, ils arrivent péniblement à 30%. Dit autrement, la gauche dans son ensemble pèse moins que le RN à lui tout seul. C'est vénère quand même. Ça peut changer. Et ça va changer, j'espère, dans les mois qui viennent. Mais là, à ce stade, la gauche, elle ne joue pas dans la cour des grands. Hein. Est-ce que la division à gauche est particulièrement marquée en France ou c'est une tendance générale? Tu peux pas vraiment comparer les pays les uns avec les autres, déjà parce que tu as des systèmes politiques différents, tu as des modes de scrutin différents, tu as des cultures politiques différentes, tu as des histoires et des dynamiques politiques différentes, tu as des hégémonies dans certains pays. Voilà. Mais même la France et l'Allemagne, c'est difficile de comparer le PS avec le SPD. Merci Nick, merci. Pourquoi LFI porte l'étendard de la gauche alors que le PS et LFI ont le même nombre de sièges en 2024? Alors déjà, il ne faut pas comparer parce que LFI et le PS se sont présentés l'un contre l'autre aux élections présidentielles, mais ils se sont présentés ensemble aux élections législatives. Donc le score du PS et le score de LFI, c'est un peu le même. Dans les circonscriptions qui ont élu des députés PS, il y avait des électeurs LFI qui ont voté PS. dans les circonscriptions qui ont élu un député LFI, il y avait des élus, des électeurs socialistes qui ont voté LFI. Et ensuite, ça dépend beaucoup des circos. Il y a des circos dans lesquels tu as des réserves de voix plus importantes. La France Insoumise, par exemple, c'est un parti qui performe assez bien dans les quartiers populaires. On l'a vu aux élections municipales, où ils ont fait leur entrée dans beaucoup de conseils municipaux. Ils ont même gagné des villes comme Saint-Denis, ou Roubaix, etc. Même s'ils ont fait alliance avec le PS, là aussi, ça devient difficile de faire la part des choses entre le PS et LFI dans des villes dans lesquelles ils ont fusionné au second tour. Mais bref, admettons. Le Parti Socialiste, de son côté, a réussi à faire élire des candidats dans d'autres typologies de circonscriptions. Et puis parfois, le PS avait plus de réserves de voix que LFI. Mais encore une fois, ça dépend, parce que si c'était en 4 triangulaires, ça ne marche pas tout à fait de la même manière. Quartier populaire, ça veut dire quoi en 2026? Ça n'a jamais changé de définition depuis plus d'un siècle. Quartier populaire, ce sont des zones urbaines dans lesquelles vivent des populations défavorisées. C'est tout. On appelle ça aussi les quartiers qui relèvent de la politique de la ville, selon la cartographie officielle du ministère de la ville. C'est pas les quartiers des célébrités. C'est pas Hollywood Boulevard? Eh non. Alors c'est pas le genre, non. Est-ce que tu penses que la primaire de Ruffin et de Tondelier peut se casser la gueule? Oui. Oui, clairement. C'est-à-dire que, en fait, mais c'est une réflexion ouverte, mais est-ce que la primaire a du sens sans le Parti Socialiste? Est-ce que ça a du sens de faire une primaire dans laquelle il n'y aurait que les écologistes et les anciens insoumis? Est-ce que c'est un espace politique suffisamment grand pour embarquer les foules, etc.? J'en doute. Le truc, c'est que la participation du Parti Socialiste à cette primaire est plus que jamais hypothétique. Depuis qu'Olivier Faure a été mis en minorité au Bureau National, pour moi, elle a plus que du plomb dans l'aile, cette primaire. Je pense qu'elle ne verra pas le jour. Tu me diras, c'est jamais qu'une primaire écolo comme il y en a eu en 2017, 2012, 2022. Oui, c'est vrai. Les écologistes, c'est un parti, pour le coup, très démocratique, presque trop d'ailleurs, parfois. Et ils ont fait des processus de primaire pour toutes les dernières présidentielles, oui. Ça, c'est vrai. Mais c'est pas tout à fait la même chose entre une primaire qui est assumée comme étant une primaire interne à un mouvement politique et une primaire qui se veut être une primaire ouverte et surtout une primaire de large rassemblement. Mais si le large rassemblement, il commence par « on rassemble pas grand monde », toi qui connais bien le 20e, tu seras à la Bellevilloise jeudi? Quoi, il y a quoi à la Bellevilloise jeudi? Mais non, j'ai backseat jeudi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse à la Bellevilloise? Donc non, moi clairement, franchement, à ce stade, la primaire, c'est pas que j'y croyais pas avant, d'ailleurs j'ai pas à croire ou à pas y croire, on n'est pas dans le domaine de la foi, c'est de regarder un petit peu ce qui se passe, et j'ai l'impression qu'elle a du plomb dans l'aile de ouf. C'est-à-dire, au moment où Marine Tondelier sort un livre pour défendre la primaire, le PS se désengage de la primaire. Il ne se désengage pas encore formellement. Mais... Et quand bien même... Moi, j'essaye de penser au coup d'après. Admettons Admettons que la primaire se tienne avec le PS, mais que tu es la moitié du PS qui passe son temps à taper sur la primaire. T'imagines ? Déjà que tu as les insoumis qui tapent sur la primaire, puis de l'autre côté, tu as le PS qui tape sur la primaire. Genre vraiment, personne ne la veut, cette primaire. Oh, ça, l'ambiance va être détestable. Et une primaire interne au PS pour qu'ils choisissent un candidat. Non mais ouais, oui, non mais ça va peut-être finir comme ça, hein. Ça va peut-être finir avec une primaire du PS et une primaire des écolos, chacun de son côté. Bah bravo. Bah c'est super. Bah bon courage les copains. Hamon, il n'avait pas gagné une primaire qui avait fait flop après. Si, si, Benoît Hamon avait remporté une primaire, mais qui était une primaire un peu particulière, qui était une primaire organisée faute de candidature de François Hollande à sa propre succession. Et c'est une primaire... Enfin, c'était une primaire au cours de laquelle se sont affrontées pas seulement des personnalités, mais aussi des lignes politiques franchement incompatibles l'une avec l'autre. Grosso merdo, dans la primaire de 2017 au Parti Socialiste, on avait... une partie, enfin c'était en 2016 en l'occurrence qu'elle a eu lieu, avant la présidentielle, on avait une partie des candidats qui étaient des frondeurs, donc qui critiquaient le bilan de François Hollande, et l'autre moitié des candidats qui étaient les artisans du bilan de François Hollande, notamment Manuel Valls. Donc, elle était impossible cette primaire. En fait, ce qu'on a demandé aux électeurs de cette primaire, aux socialistes en l'occurrence, c'était... non pas de choisir un candidat du Parti Socialiste à l'élection présidentielle, non. Ce qu'on leur a demandé, c'était de trancher le bilan de François Hollande. Et ça, c'est pas le genre de question qu'on doit régler dans une primaire. Parce que ça a donné ce que ça a donné, c'est-à-dire Benoît Hamon, qui est investi candidat d'un parti dont il n'assume pas le bilan. Quand même très compliqué pour Benoît Hamon de faire campagne. C'est-à-dire que en fait le message était impossible. Votez pour moi et ça changera. Bah, mais si on vote pour toi, on vote PS. Du coup, le PS c'est ce qu'on critique. Oui, mais moi aussi je le critique. Vous inquiétez pas. Ah bon, t'es anti-PS, mais t'es candidat du PS. Comment ça se passe? En fait, c'était inextricable comme situation. Benoît Hamon a fait une très bonne campagne, je trouve. Il a fait de son mieux pour essayer de faire à sa sauce, à lui, une forme de synthèse des socialistes, mais c'était trop tard. C'était fini. De deux choses l'une, quand tu étais électeur à l'époque, soit tu étais plutôt favorable à la ligne politique de François Hollande et de Manuel Valls, et tu allais voter pour Emmanuel Macron, c'était lui le candidat naturel de cette partie-là, soit tu étais critique du bilan de François Hollande et de Manuel Valls, et tu votais Jean-Luc Mélenchon. Voilà. Le pauvre Benoît Hamon au milieu. Je voulais qu'il fasse. Est-ce qu'on peut imaginer une primaire du PS qui inclut éventuellement Glucksmann avec un candidat plutôt tendance fort qui gagne? Même, en fait, même, non, mais même débat. C'est-à-dire que une primaire pour que ça marche, enfin pour que ça marche, pour que ça ait une cohérence politique, il faut un minimum de socle de cohérence idéologique entre tous les candidats. Qu'ils aient en partage quelque chose. Par exemple, la primaire des écologistes, Bon, bah, tous les candidats étaient écologistes. Ils l'étaient différemment, avec des nuances plus ou moins importantes, mais ils étaient tous écolos, membres du parti écologiste, etc. T'avais Delphine Bateau, t'avais Yannick Jadot, t'avais Sandrine Rousseau, et t'avais Governatori. Ça, personne n'a compris ce qu'il faisait là, mais lui, il était là. Bon, donc ça marchait. Si tu fais une primaire dans laquelle tu as des gens qui viennent défendre des options politiques incompatibles les unes avec les autres sur certains points, voire sur des points bloquants, bah en fait, c'est pas une primaire que tu fais. C'est un congrès. Voilà. et ça doit pas être ça, une primaire. C'est ça le paradoxe d'une primaire. C'est qu'une primaire, ça doit sélectionner, comment dire, une candidature, donc une personne, qui va incarner un projet, et ce projet, même si la personne va lui donner une teinte importante, ce projet doit quand même être partagé par les autres candidats. Merci Paolo. Donc, si tu fais une primaire sans projet, en fait, tu organises un congrès. Que tu demandes à chaque candidat de venir avec son idée à lui, son idéologie, sa structure, ses options politiques, et puis tu peux organiser une espèce de grand ramassis dans lequel les gens peuvent pas se piffrer les uns les autres. Au sens politique du terme, je veux dire, ne peuvent pas se rejoindre. À l'inverse, si tu fais un programme détaillé, chiffré, puis que tu fais une primaire, en fait, tu fais pas vraiment une primaire, tu fais un casting. Parce que ce que tu vas choisir, c'est juste une tronche. Le programme, lui, on n'y touche pas, on change rien, etc. Bah non, il faut quand même que la primaire présente un enjeu politique minimum pour que les candidats aient des choses à dire, des choses à proposer, des nuances à apporter, sans remettre en cause l'architecture, ils peuvent quand même apporter des éléments, quoi. Donc vous voyez, c'est un peu subtil, une primaire, pour que ça ait du sens politiquement. Et encore une fois que je vous ai dit ça, c'est pas parce que vous avez une primaire qui a une cohérence qu'elle va gagner quoi que ce soit. Parce que le candidat issu de la primaire peut très bien se péter la gueule, hein. Moi, j'avais trouvé, par exemple, en 2022, que la primaire des écolos avait été plutôt, je trouve, une bonne primaire, dans le sens où elle était intelligente, respectueuse, cohérente. Il y avait des vraies différences. Il y avait des vraies nuances entre les candidats. Entre Yannick Jadot et Sandrine Rousseau, bah, ce n'est pas exactement la même ligne politique. Il y a des nuances. Il y avait Delphine Bateau aussi qui était candidate. J'ai oublié tout à l'heure, il y avait aussi le maire de Grenoble, dont vous allez me rappeler le nom, qui était candidat. Éric Piolle. Merci beaucoup, Éric Piolle. Ils avaient chacun des nuances, une ligne écologiste différente, mais ils étaient tous écologistes. J'avais trouvé leur débat, parce qu'ils avaient fait un débat à l'époque sur LCP ou sur Public Sénat, je ne sais plus, ils avaient fait un débat que j'avais trouvé très respectueux et intelligent. Et ça, pour le coup, ce n'est pas tous les jours dans les débats politiques à la télévision. Ils s'écoutaient les uns les autres, ils se laissaient parler, ils étaient clairs sur leurs différences, mais aussi sur ce qui les rapprochait et tout. Et voilà. Bon, ma moralité de l'histoire, c'est Yannick Jadot qui a gagné cette primaire. Mais Yannick Jadot, il n'a pas fait un score de fou à la présidentielle. Ça n'a pas marché. Donc c'est pour ça que je vous dis toujours qu'une primaire n'est jamais une garantie de victoire de quoi que ce soit. C'est pas parce que vous faites une primaire que vous rassemblez largement des électeurs, non ? Non, non, vous pouvez rassembler pas grand monde. C'est déjà bien parfois, mais c'est pas suffisant, quoi. Et donc, forcément, si tu organises une primaire dans laquelle tu mets un Raphaël Glucksmann et un Benoît Hamon, tu vois, bon, bah non, en fait. Non, parce qu'on a énormément de mal à imaginer comment les deux pourraient se mettre d'accord. Disons qu'ils ne peuvent se mettre d'accord que contraints et forcés dos au mur. Une primaire entre JLM et Hollande n'aurait aucun sens. Bah, je suis assez d'accord avec toi. Et encore, enfin, bon, je vous rappelle qu'une primaire de JLM à Hollande, ça s'appelle le Parti Socialiste. Hein. Ça s'appelle le congrès du PS en 97. Hein. Voilà, et je dis ça en rigolant, mais en vous rappelant quand même que fut un temps où le Parti Socialiste, lorsqu'il était hégémonique, lorsqu'il faisait des scores stratosphériques aux élections, etc., c'était une époque où le PS était très divers. Mais le PS avait des modalités pour trancher les désaccords, pour élaborer des propositions et faire des synthèses entre les courants, etc. Bon, ça a fait long feu, mais ça a fait long feu, mais ça a duré des années quand même. Je vous rappellerai toujours que au Parti Socialiste, il y a eu Jean-Luc Mélenchon et Dominique Strauss-Kahn pendant des années. Pendant des années, ils étaient dans le même parti politique. Bon, bah c'était une autre époque. C'était un PS hégémonique, c'était un PS avec des motions, avec des tendances, avec des congrès, avec un conseil national, un bureau national, des engueulades, etc. C'était pas tous les jours facile, hein, clairement. Et à la fin, c'était François Hollande qui faisait la synthèse. La primaire de 2017, il devait soutenir le candidat gagnant, mais combien ont trahi pour rejoindre Macron ? Mais non, mais c'est ce que je t'expliquais tout à l'heure sur cette primaire de 2017 qui était une primaire impossible. On ne peut pas demander à Benoît Hamon de soutenir Manuel Valls, ce n'est pas possible. On ne peut pas demander à Manuel Valls de soutenir Benoît Hamon, ce n'est pas possible. Ils ont un désaccord politique trop important. Donc, en fait, cette primaire n'avait pas de sens. C'est comme si on faisait demain une primaire, effectivement, de Jean-Luc Mélenchon à François Hollande, et que François Hollande la gagnait, bah, il y a quand même un paquet d'insoumis qui ne soutiendraient pas Hollande. Hein. Et je les comprends. Ils ne sont pas sur la même ligne politique que lui. Et ce n'est pas seulement une question de nuance. Ils ne sont pas sur, sur la même ligne politique que lui de façon rédhibitoire. Merci Foupi. Merci. Donc voilà quoi. Je suis désolé, mais Jadot Rousseau, c'est la même chose. Ah ouais. D'accord. Sandrine Rousseau n'est pas partie rejoindre Mélenchon. Non, effectivement. Et donc, ça veut dire qu'elle est la même chose que... Ah oui. Si tu veux. Sinon, autant faire une primaire de Poutou à Darmanin. Ouais, non mais voilà. Une primaire, si c'est juste un casting, ça n'a pas de sens. La cohérence politique joue pour beaucoup. Jadot Rousseau, c'est la même chose que Hamon Valls. Non, Jadot Rousseau, c'est... Non, c'est pas la même chose que Hamon Valls. Ils ont des divergences politiques, Rousseau et Jadot, on les connaît d'ailleurs, elles sont connues. Mais pour autant, la cohérence programmatique du parti écologiste, elle est différente. Elle est maintenue. Et surtout en 2022, elle fonctionnait encore. D'ailleurs, elle fonctionne toujours aujourd'hui. Hamon Valls, le débat entre les deux était rédhibitoire. Hamon était un frondeur. Enfin, vous vous rendez compte ? Valls ne peut pas soutenir un frondeur, c'est pas possible. Et si Valls avait gagné, Hamon n'aurait pas pu le soutenir. À l'impossible, nul n'est tenu. Comment choisis-tu un candidat commun entre le PS, le PCF, ELV, etc. sans primaire ? Bah, t'as une technique qui s'appelle la primaire sauvage. La primaire sauvage, ça consiste à regarder les sondages. Voilà, c'est tout. c'est bourrin, hein. C'est bourrin, c'est nul, mais c'est... chacun détermine son programme, chacun détermine son candidat. Et puis, avant le mois de décembre, on prend une décision. Et en gros, t'en as qui se font harakiri et qui se rallient à un autre. Voilà, c'est ça. Tu penses que Amon aurait aussi renié sa parole du coup? Évidemment. Mais bien sûr. Il n'y a pas un monde où Benoît Hamon soutient Manuel Valls. Surtout en 2017. On est un an après la loi travail. Je veux dire, Hamon et Valls se sont hurlés dessus en réunion du groupe à l'Assemblée nationale. C'est surtout Valls qui hurlait apparemment. À une époque, il y avait Mélenchon et Valls dans le même parti. Ouais. Et ils soutenaient tous les deux Ségolène Royal. C'est beau, non? Parce qu'elle avait gagné la primaire. Ben ouais. Question subsidiaire, je comprends pas la différence entre, fondamentale entre un parti et un mouvement. Tu saurais m'expliquer, il n'y a aucune différence. Il n'y a pas de différence entre un parti et un mouvement. Mais comme les Français n'aiment pas les partis politiques ont une cote de popularité proche de zéro, depuis les années 2000, on utilise le mot mouvement pour désigner une organisation qui présente des candidats à des élections. A.K.A. un fucking parti politique. Et c'est très bien, c'est pas grave. Enfin, personnellement, c'est pas un gros mot. Parti politique, c'est ça. C'est une orga, une structure à but non lucratif qui élabore des propositions dans le débat public et qui présente des candidats aux élections pour soutenir ces propositions. Voilà. C'est pas malsain, c'est même utile à la démocratie. À but non lucratif. Pourquoi vous buguez? Pourquoi vous... Ah, vous savez pas ce que ça veut dire, à but non lucratif? Ce qu'on appelle une organisation à but lucratif, c'est le cas notamment pour les associations loi 1901, pour les fondations, etc. Ce sont des organisations qui n'ont pas le droit de répartir les bénéfices parmi leurs membres. Voilà. Si jamais elles réalisent des bénéfices, elles ont l'interdiction par la loi de répartir ses bénéfices parmi leurs membres. Le RN est à but non lucratif aussi? Oui. Pourquoi? Il dit ça à cause du procès de Marine Le Pen. Ça n'a rien à voir avec la non-lucrativité de l'organisation. Le détournement de fonds publics du Parlement européen, c'était pour avoir des heures de travail pour le compte du parti. C'était pas pour un enrichissement du parti et de ses membres. En gros, c'est une asso, un parti politique. En gros, c'est une asso. C'est une forme particulière d'asso. C'était une blague. Ah, c'était une blague. Non, mais je sais jamais si c'est une blague ou s'il y a vraiment des gens perdus qui savent pas ce que c'est. Parce que je sais que ça peut embrouiller un peu l'esprit quand on entend parler de procès, politique, argent... Quelque part, il y a des gens qui s'en mettent plein les fouilles. Je peux comprendre, hein, c'est pas toujours évident. Est-ce que mon club de pétanque, c'est un parti politique? Ça dépend, il a présenté qui comme candidat à quelle élection? N'empêche que les gens comprennent rarement que la non-lucrativité, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire de bénéfices, ni qu'on ne peut pas être bien payé, mais on peut toujours pas détourner d'argent.
Oui.
Non, mais t'as raison. Alors moi, il se trouve que, à titre personnel, je viens du mouvement associatif, je viens du secteur associatif. Donc je je suis habitué à ça. La non-lucrativité, le fait de faire des bénéfices, etc. Là, je suis habitué à ça depuis que j'ai l'âge de 17 ans à peu près. Et je me rends compte effectivement qu'il y a plein de gens pour qui, et c'est pas une critique, hein, mais il y a plein de gens pour qui c'est pas clair. Voilà. Donc oui, il y a des associations qui ont beaucoup d'argent. Il y a des associations qui ont beaucoup de fonciers. Il y en a. Il y a des associations qui ont beaucoup de salariés. Il y a des associations qui ont beaucoup de membres. Enfin bref, il y a plein de types d'associations, il y a plein d'associations très différentes les unes des autres, et ça ne remet pas en cause le caractère non lucratif de leur fonctionnement, qui est un impératif légal, et voilà. D'ailleurs, on ne dit pas bénéfice, on dit excédent pour ne pas confondre. Oui, tu as raison. Dans le budget d'une association, on parle d'excédent dans le bilan. Dans le bilan comptable, on parle d'excédent budgétaire. Ce qui est rare, hein, on va pas se mentir, c'est rare. Par contre, déficit, on dit déficit. Hein. Ah ouais, déficit, là, c'est... Ouais. Il y a des associations qui payent bien les employés.
Ouais.
Alors, on va être très clair. Oui, il y a des associations qui payent bien les employés. Il y en a aussi un paquet qui les paye très très mal. Coucou à tous les travailleurs du secteur associatif. Encore une fois, vraiment, association, loi 1901, ça veut dire but non lucratif, interdiction de reverser les excédents budgétaires aux membres de l'association. Ça ne veut pas dire vœu de pauvreté franciscain, tout le monde est à la schlag, etc. Non, ça ne veut pas dire ça. C'est juste que tu verses pas de dividendes en gros. Oui, c'est ça. C'est légalement, strictement interdit de verser des dividendes à qui que ce soit dans une association loi 1901. Mais c'est important effectivement de faire la pédagogie de ça parce que je me rends compte que je me rends bien compte que c'est pas clair quoi. Comment sont utilisés les excédents dans le cas où il y en a? Si jamais à la fin de l'année l'association réalise un excédent budgétaire, elle a l'interdiction de reverser cet excédent aux membres de l'association. Il y a aucun circuit de dividende, c'est-à-dire de reverser on se partage l'argent ou je sais pas quoi. Non. Tu as l'obligation de conserver l'excédent pour l'objet de l'association. Donc pour mener des actions. Disons que ça te fait un plus pour le budget de l'année prochaine. C'est cool. Donc soit tu le laisses sur le compte en banque, soit tu en profites pour acheter un nouvel ordinateur pour les salariés, soit tu... Enfin bref, c'est de l'argent qu'a l'association, qu'elle peut utiliser pour l'association. Elle peut augmenter le salaire des salariés, par exemple. N'hésitez pas. Est-ce que l'association peut utiliser l'argent pour l'achat d'objets pour donner aux membres ? Non, ça, c'est du détournement de... C'est de l'abus de bien social, ça. Elle peut donner une prime aux salariés, ça sonne comme un dividende caché. Parce que tu confonds les salariés et les membres de l'association ? Ben oui. Il y a des... alors, les salariés d'une association ont le droit d'être membres de l'association, mais il y a des règles. Notamment pour les dirigeants de l'association. Les dirigeants salariés, je ne sais plus exactement quelles sont les règles, mais grosso merdo, une association ne peut pas être composée de 3 personnes qui sont elles-mêmes 3 salariés de la même association qui se versent des salaires. Non, ça n'est pas possible. Ça, c'est interdit. Je ne sais plus si les salariés ne peuvent pas être dans le CA. Alors, je ne suis pas sûr qu'ils ont l'interdiction d'être dans le CA. Je crois qu'ils peuvent être représentés au CA, mais ils doivent être minoritaires en termes de prise de décision au CA. Parce qu'il y a des CA d'associations dans lesquelles il y a des représentants des salariés qui siègent. Ce qui est plutôt une bonne chose. Mais bon, ça ne me regarde pas. Ce n'est pas à moi de porter un jugement sur les fonctionnements des assos des autres. Tu peux pas gérer l'asso et diriger le bureau, il me semble. Non, tu dois avoir une différence stricte entre le président de l'association, qui est un bénévole, et le directeur général de l'association, qui peut être un salarié. Et qui peut être à la tête de toutes les équipes salariées de l'association et tout. Mais le président doit rester un bénévole. Bref, je suis désolé, je connais pas les règles précises. Est-ce qu'on peut être prestataire de son association ? C'est les mêmes règles qui s'appliquent. Tu peux pas faire un abus de bien social. Tu peux pas en loose day récupérer du fric d'une association dont tu es membre pour t'enrichir. Sinon, tu violes le principe de non-lucrativité de l'association. Est-ce qu'on peut être président d'une association et faire partie d'une autre association en tant que salarié ? Oui. Quelle est la différence entre un salarié et un membre ? Un salarié, c'est une personne qui travaille en échange d'un salaire conformément à un contrat de travail. Un membre, c'est n'importe quelle personne qui est adhérente de l'association, selon ce que prévoient les statuts de l'association comme type d'adhésion. Si tu as une boîte qui a pour client une asso dont tu es membre, non mais, je ne sais pas quoi vous répondre. Il y en a plein dans le chat qui essayent de trouver un système pour gruger la loi. Je vous dis, c'est illégal, voilà, c'est tout. Je ne sais pas quoi vous dire. C'est illégal. Qu'est-ce qui se passe si je dépasse 130 km/h sur l'autoroute ? Bah, c'est illégal, c'est tout. Je sais pas. Est-ce qu'un organisme privé à but non lucratif, c'est la même chose ? Alors, le terme Association, c'est un terme qu'on utilise pour désigner spécifiquement les associations relevant de la loi 1901, loi sur la liberté associative. C'est la grande loi de la Troisième République sur la liberté de s'associer pour faire des trucs à but non lucratif. Il y a d'autres organismes qui relèvent d'autres lois qui sont aussi à but non lucratif. C'est le cas pour les fondations, c'est le cas probablement pour les mutuelles, c'est le cas pour certains hôpitaux, c'est possible, j'en sais rien, je sais pas. Mais je connais pas le statut de ces organismes-là. Je connais pas le statut, je sais pas de quelle loi ça relève, je sais pas quel statut fiscal, administratif et tout, je sais pas. Merci, le flan, c'est bon. Merci. Est-ce qu'on peut faire deux associations clones où le directeur de l'un et le salarié de l'autre est réciproquement ? Il y a un truc que je peux me permettre de vous conseiller, c'est un conseil général dans la vie, c'est de pas trop essayer de prendre les inspecteurs de la répression des fraudes pour des cons. Il y en a d'autres qui ont essayé. Il y en a d'autres qui ont essayé. Ça, c'est pas très bien fini. Après, vous faites ce que vous voulez. Moi, je suis pas là pour juger. Ouais, non. L'administration fiscale, la répression des fraudes, le parquet. Ils ont quelques siècles de d'entraînement derrière eux. Ils en ont coffré plus d'un. Il y en a qui ont essayé. Je ne sais plus qui avait dit ça une fois, mais si vous avez une idée machiavélique en tête en vous disant « Mais attends, j'ai un plan pour faire de l'argent de manière illégale », dites-vous qu'il y a sûrement un mec en prison qui a déjà eu le même plan que vous. Il y en a sûrement au moins un qui est dans sa cellule à l'heure où je vous parle. Après, on ne sait pas, peut-être que vous êtes meilleur que lui. Mais bon courage. Il y a trois, dans la vie, il y a trois choses inévitables. La mort, les impôts et les subs à Jean Massier. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Après, il y a encore un paquet de milliardaires qui ont réussi à esquiver apparemment. Non, c'est là qu'ils sont forts, c'est qu'ils n'ont pas besoin d'esquiver. Parce que les lois fiscales sont tellement bien faites que tu peux payer très peu d'impôts tout en restant dans la légalité. C'est pour ça qu'il y a des avocats fiscalistes. Ouais, il y a des avocats fiscalistes. Eux, ils sauront vous dire, mieux que moi d'ailleurs, quels sont les dispositifs dont vous pouvez bénéficier. C'est pour ça que l'argent va à l'argent. Ah, ça doit faire partie des raisons, ouais. Bon, demain, Backseat, les copains. Demain, Backseat. Rendez-vous à partir de 18h30 pour suivre l'émission. On fait un before demain avec l'Institut Pasteur. Institut Pasteur, on va parler de la vaccination. Rendez-vous 18h30 sur Backseat. Ensuite, à 19h, on commence l'émission. L'émission que vous aimez tant. On sera en plateau avec Namou, avec Usul et avec Rachel. On va parler des sujets de la semaine. On va faire les cartes blanches des chroniqueurs, évidemment. Et on aura un Edouito d'Edoui Plenel qui sera là avec nous sur le plateau. Après la pause, on sera avec la vie d'Adèle. Puis notre invité politique, nous recevons Erwan Balanan, le député MoDem du Finistère, avec qui on va aborder tout plein de sujets d'actualité. Et ça va être chouette. On a plein de questions à lui poser, ça va être cool. Et à la fin, il y a un buffet. Je vous rappelle que les gens qui sont dans le public de Backseat, ils mangent au buffet après, ils boivent des bières aussi, avec nous, avec les chroniqueurs et tout. Point d'exclamation, place dans le chat. Prenez votre place, venez nous voir demain dans le public de Backseat. Si vous habitez à Paris ou en Ile-de-France, je vous donne rendez-vous demain dans le public de Backseat. On tourne dans le 20e arrondissement de Paris. Les bières sont offertes, les nems également. Et voilà. Et les autres, je vous donne rendez-vous dans votre frigo pour y trouver une bière et des nems à déguster en regardant Backseat, bien sûr. Donc voilà. Merci les copains d'avoir été là pour ce petit stream léger, un peu à l'arrache, qui nous a permis de découvrir les quelques propositions du Parti Socialiste dont on ne sait que faire à ce stade. Merci d'avoir été là. Je vous fais des bisous. Je vous souhaite une bonne soirée. Et on se retrouve demain pour Backseat. À demain. Salut les copains.